Alors, j'arrive de Montauban où c'était un club vraiment très famille, où on avait un groupe très soudé, avec très peu d'étrangers du coup. Et j'arrive à Toulon où c'est tout l'inverse en fait. Les entraînements sont parlés en anglais et traduits en français. Ça a été très compliqué au début, mais j'apprends sur le tas et voilà, j'apprends à jouer avec eux et j'apprends aussi la langue. Et voilà, ça a été assez compliqué, mais on s'est bien sorti.
Vous reconnaissez cette voix? C'est celle d'un homme qui a toujours su s'adapter. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Natif de Tarbes, mon invité grandit à une quarantaine de kilomètres de là, à Castelnau-Rivière-Basse. C'est à 7 ans qu'il commence le rugby à Riscle avant de se déplacer quelquefois au gré des mutations parentales. Mais c'est à Lourdes, au milieu des années 90, qu'il fait ses premiers pas d'équipier premier. Il signera ensuite un contrat pro à la section paloise en 1997 à tout juste 20 ans. Il y passera deux saisons avant de partir à Castres puis à Dax. C'est alors qu'il éclore réellement et s'engage en 2002 du côté de Montauban pour y vivre 6 incroyables saisons, auréolées notamment d'un titre de Pro D2 en 2006. En 2008, il saisit l'opportunité de s'engager dans le pharaonique projet toulonnais, s'imposant dans un effectif doté des plus grandes stars mondiales. La trentaine alors bien entamée, il décide de se rapprocher de chez lui et rejoint en 2010 l'Aviron Bayonnais, où il passera quasiment deux saisons. Il longera ensuite la côte atlantique pour vivre une nouvelle jeunesse rugbystique du côté de La Rochelle, jusqu'à 36 ans passés. Évidemment, je suis parti rendre visite à l'inoxydable Sébastien Fauquet. Redoutable buteur et gros défenseur, Sébastien a su faire montre d'une longévité exceptionnelle. Après son départ de La Rochelle en 2013, il a joué encore 8 saisons en Anglette en Fédéral 1. Retraité des terrains à 44 ans au moment du Covid, il avait évidemment initié son projet de reconversion et a créé son food truck, le Fauquet. Fort de ce premier succès, il a ensuite ouvert le restaurant du même nom, toujours à Anglette. Vous allez l'entendre, Sébastien paraît réservé de prime abord, mais il est plein d'anecdotes et c'est un grand sensible avec qui j'ai passé un super moment. Petit rappel très important, n'hésitez surtout pas à adhérer à l'association La Cravate en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. C'est vraiment capital pour que l'aventure perdure. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, vous pouvez aller le noter 5 sur 5 sur la plateforme où vous l'écoutez, laisser un commentaire sympa et évidemment le partager autour de vous. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Sébastien.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Ouais, ça va, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, on est à Anglette, dans ton antre, on est au Fauquet.
Le Fauquet, voilà, c'est un petit jeu de mots, mais c'est une restauration rapide que j'ai monté à côté de lycée Cantois à Anglette. Voilà, ça fait un petit moment maintenant que je suis sur les lieux, puisque je tenais un food truck pendant 5 ans à côté, et puis voilà, ce restaurant a vu le jour.
Bon, je remercie les Romains. D'abord, mon pote, hein, Romain Chabat, le chat, excellent joueur qui est aujourd'hui à Anglette d'ailleurs, mais qui est surtout un très bon mec, pour nous avoir mis en contact. Et je remercie aussi évidemment Romain Terrain, invité émérite de l'épisode 78, mais pour m'avoir vivement conseillé de venir à ta rencontre. D'ailleurs, il me semble que tu as un rapport un petit peu particulier avec Romain Terrain.
Oui, bien sûr, un rapport particulier, puisque c'est mon beau-frère. Voilà. Je suis marié avec sa sœur Stéphanie. Et voilà, nous avons formé notre petite famille avec ma grande fille qui a 17 ans, Cléa, et mon petit Jules qui a bientôt 14 ans.
Magnifique. C'est vrai que tu es un visage très connu du rugby français, d'une part par rapport à ta réussite, mais aussi par ton incroyable longévité, hein, parce que tu as passé plus de 20 ans au plus haut niveau. Il faut se rendre compte qu'à près de 44 ans, tu jouais toujours en Fédéral 1 d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai que j'avais décidé d'arrêter, mais bon, j'avais quand même gardé une licence de joueur tout en entraînant, et voilà, au cas où il y a des blessures, des petits soucis, et puis il s'est avéré qu'au bout de 3 matchs, on avait quelques petits problèmes, donc j'ai repris, j'ai fait une mi-temps, et bon, après j'ai été stoppé par le Covid, Et voilà, donc après, ça a été vraiment un arrêt définitif, quoi.
D'accord. Bon, on en parlera plus longuement. Mais c'est vrai qu'en pro, tu as connu pas mal de clubs, hein, parce que tu es passé par la section paloise, Castres, Dax, Montauban, Toulon, Bayonne, La Rochelle. Enfin, des clubs incroyables. Et aujourd'hui, tu as réussi ta reconversion. Et je suis impatient d'en savoir plus sur toi. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Sébastien.
De quoi je rêvais? Je rêvais beaucoup de sport. Ça, c'était sûr. C'était une chose dans laquelle je voulais faire mon métier. Tout jeune, je voulais être prof de sport. Mais bon, c'était un peu compliqué au niveau des études, puisqu'il fallait quand même avoir un niveau assez élevé. Et puis, je ne pouvais pas me permettre de rentrer dans ces écoles-là, puisque je n'avais pas le niveau. Donc, bon, le rugby, c'est toute ma vie aussi. Donc, c'est tout naturellement que j'ai joué au rugby avec mes potes et puis ben après c'est arrivé, ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus un jour et puis après j'ai pu lâcher le coup, quoi.
Ouais, t'étais quel genre de petit garçon?
Ça c'est... Bon, j'étais assez calme, hein. On était à la campagne, j'avais un groupe de potes et puis voilà, on se rejoignait, on jouait au foot, on jouait à tout, à la pétanque, au rugby... Et puis voilà, et puis après, je joue au club, j'ai commencé au club des risques, donc voilà, je me suis fait aussi d'autres potes que ceux de mon village. En club, j'ai vraiment accroché, et puis depuis, j'ai toujours joué au rugby, quoi.
Oui, parce que tu parles de risques. Aujourd'hui, on est à Anglette, donc pas tout à côté de risques, mais tu es né à Tarbes.
C'est ça, je suis né à Tarbes et j'ai jamais joué à Tarbes. Ouais. J'ai joué à Lourdes, mais pas à Tarbes.
Comment ça se fait? T'as une famille qui est originaire des Hautes-Pyrénées?
Oui, bien sûr, j'ai mes parents qui sont à Castelnau-Riherbasse, donc on y rentre de temps en temps pour se ressourcer un petit peu, voir la famille, et ça fait toujours du bien.
Ouais, qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents?
Alors mon père était cuisinier, et ma mère travaillait dans une maison de retraite à Castelnau-Riherbasse. Après ils ont échangé un petit peu de métier, puis ils avaient tenu une station de service, et après ils sont revenus aux sources, donc voilà.
Ok, génial. T'as des frères et sœurs?
Oui, j'ai un petit frère de 9 ans de moins, Alexandre, qui m'a beaucoup suivi aussi dans ma carrière. J'ai essayé de le faire venir un peu partout où je suis passé, enfin partout, par rapport à sa génération. Mais il est venu avec moi à Dax et après il m'a suivi à Montauban. Et il a posé ses valises et il est resté, lui, à Montauban où il fait sa vie actuellement.
Super. T'es issu d'une famille du rugby ou pas spécialement?
Oui, bien sûr. Mon père a joué au rugby. Quand j'étais tout gosse, j'allais le voir jouer. On jouait avec mes potes dans la butte quand mon père jouait. Et voilà, c'est... Oui, une famille de rugby. Mes oncles jouent au rugby aussi. C'est... Tous les week-ends, c'était rugby. Quand mon père jouait, il fallait pas que je loupe un match, quoi.
Ouais. Il jouait à risque, le papa?
Non, Castelnau-Riherbasse.
Ah, d'accord. Oui. Ok. Mais comment ça se fait dans ce cas que toi, t'es commencé à risque, là?
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de rugby à Castelnau. Et en fait, c'était... à l'époque, il n'y avait pas d'entente encore. Maintenant, c'est l'URBR, c'est plusieurs clubs qui sont réunis. Mais à mon époque, il n'y avait pas de club. Donc, c'était risque. Il y avait, je crois, Plaisance du Gers à la limite. Mais voilà, c'était parti à risque.
Ok. Et avant d'attaquer le rugby, tu fais d'autres sports ou pas?
Ben, j'aimais bien toucher à tout un peu. Enfin, toucher à tout. À tout ce qui est foot, handball, basket. À l'école, je me régalais. J'aimais jouer à tout, quoi.
T'étais,
tout ce qui était ballon et collectif,
ouais,
on va dire.
Je vois. Mais t'étais pas licencié dans autre chose, en tout cas. Le premier sport où t'as une licence, c'est bien le rugby.
Ouais, j'ai toujours eu que licence au rugby.
Ok. T'as commencé à quel âge?
Alors, j'ai commencé à 7 ans parce qu'on pouvait pas commencer avant. Mais ouais, ça m'a démangé déjà depuis... Depuis au moins 2 ans, et voilà, il a fallu attendre vraiment la limite d'âge pour pouvoir intégrer l'école de rugby.
Bon, et si tu as commencé à risque, j'imagine que vous avez rapidement connu la famille au terrain.
Alors, mon parcours est même déjà plus jeune, a été assez tumultueux, on va dire, puisque j'ai fait l'école de rugby à risque, et puis après, mes parents, du coup, ont déménagé parce qu'ils sont partis tenir une station de service au passage d'Agen, à côté d'Agen. Du coup, je suis parti à Minime, c'était Benjamin même à l'époque, je crois, au passage d'Agen. Après, ils sont partis, ils ont été mutés, ils ont tenu une station-service à Auch. Donc, je suis parti jouer à Auch, j'ai joué à Minime à Auch. Et après, quand ils sont revenus à Castelnau-Riherbasse, je suis retourné en cadet à risque.
Ok. Vous aviez une bonne génération à risque, là?
Ouais, on avait un bon groupe, un très bon groupe, on avait fait les phases finales et ouais, c'était très bien.
Mmh. Et on te détecte rapidement des vraies qualités pour le rugby ou t'étais un gamin lambda?
Ben, je pense que j'avais quelques qualités, mais j'étais plus un gamin lambda sur qui on comptait pas forcément. Mais voilà, après, c'est à force de mental et de persévérance que j'y suis arrivé, quoi. J'ai eu des opportunités et j'ai su les saisir au bon moment.
Et bon, tu disais que l'école, c'était pas trop ton truc. T'as suivi des études malgré tout?
J'ai été jusqu'en BEP, j'avais fait un BEP maintenance électrotechnique, et puis après je me suis arrêté, je suis parti à l'armée, et puis rapidement, bon, j'ai écourté mon séjour militaire, et puis je me suis lancé vraiment dans le rugby puisque j'avais l'opportunité, donc voilà, c'est comme ça.
Ouais, t'as fait l'armée où?
J'ai fait mes classes à Castelsarrasin et après je suis parti à Lannemezan.
Ok, ah, t'as pas fait le bataillon de Joinville,
Non,
comme
ben
d'autres?
j'avais pas voulu y aller, j'avais pas voulu
Ah ouais?
partir. Ouais. Donc voilà, j'étais pas très loin de chez moi, je jouais à Lourdes, donc voilà. J'avais déjà eu beaucoup de mal à partir de Riscle pour aller à Lourdes, donc ça aurait fait beaucoup de changements et je voulais quand même rester avec mes potes, pas très loin, et la famille, donc voilà, je suis pas parti là-bas.
Je comprends. Et c'est vrai que tu restes à Riscle jusqu'à 18 ans et tu files à Lourdes donc à ce moment-là en 95.
95, ouais, je pars en junior à Lourdes. Je pars en junior à Lourdes où je joue 2 ans à Réchelle et la troisième année en première.
Pourquoi tu pars à Lourdes?
Alors je pars à Lourdes parce que en fait j'ai mon oncle qui connaissait pas mal de personnes à Lourdes et puis mes parents et mon oncle m'avaient mis en contact avec des dirigeants et parce qu'il voyait que j'avais des qualités, qu'il avait envie que je parte jouer un peu plus haut. Donc, voilà, ça s'est fait naturellement. Et d'ailleurs, je peux les remercier parce que sans eux, j'aurais pas fait la carrière que j'ai fait, quoi.
Ah ben, peut-être, ouais. Mais du coup, tu logeais où? T'avais un appart à Lourdes?
Moi, j'étais à l'école à Vicamigor et en fait, j'avais un dirigeant qui venait me chercher les jours d'entraînement. Et après, je jouais le week-end et soit il y avait un dirigeant qui me ramenait ou à l'époque, j'avais. Pour l'anecdote, je jouais avec Yannick Castro, le père de Matisse qui joue actuellement à Toulouse. Et donc souvent, on rentrait ensemble, puisqu'il habite pas très loin de chez moi, donc on rentrait ensemble après les matchs, quoi, ou après l'entraînement.
D'accord. Bon, alors, deux points pour les auditeurs qui sont pas forcément du coin. Vic-en-Bigorre, Lourdes, c'est pas tout à côté.
Non, ouais, sûr, il y avait.
Ça fait sa bonne heure, non?
On avait presque 1 heure, surtout en fin de semaine, le vendredi soir. Donc, en fait, oui, après l'école, je prenais mon sac et je partais m'entraîner là-bas.
D'accord. Et donc, le père de Matisse Castro Ferreira a joué à Lourdes aussi?
Oui, je joue à Lourdes, oui.
Ok.
Ouais, on a joué ensemble.
Ok, je l'ignorais totalement. Bon, quand tu arrives à Lourdes, c'est donc en 95. Il faut savoir que l'équipe une, elle vient d'être championne de France de groupe B, mais avec notamment en son sein encore quelques très grands joueurs. Hein. Je pense à Louise Warmary, je pense à Vern Cotter, pour ne citer que. C'est encore du très très solide, même si c'est plus le Lourdes que ça a été quelques années, quelques décennies avant. Tu arrives dans un très gros club.
Oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un gros club, mais bon, j'arrivais de Riscle et c'est vrai que j'étais un peu. Voilà, j'arrivais vraiment sur la pointe des pieds. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je me suis fait des copains et ça s'est super bien passé. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à pointer un peu le bout de mon nez, bon, je ne vais pas dire sur les feuilles de l'équipe première, mais l'entraîneur de la première commençait à s'intéresser à moi et moi, j'y croyais même pas, quoi, en fait. J'arrivais de l'école, je venais pour m'entraîner. Je sais qu'à l'époque, il jouait en Luban Noir. Il faisait des matchs le vendredi soir. Et un jour, on m'a dit « Ce soir, t'es remplaçant avec l'équipe première. » Et du coup, bon, c'était énorme pour
T'avais quoi? T'avais 19 ans quand tu fais
moi. Ouais,
ton premier match
18
avec du
ans.
Manoir?
Ouais, 19 ans.
C'est vrai que c'est très très beau. Donc tu fais 3 saisons à Lourdes, c'est ça? Deux en junior, une en première tout le temps. La saison que tu fais en première, vous étiez en quoi? En groupe B?
Élite 2, c'était à
Élite
l'époque,
2?
ouais.
D'accord. Ça marchait bien?
On avait eu un peu de mal, mais on s'en était sorti sur la saison. Au final, c'était bien passé. Ouais.
Ouais, et donc tu ne fais qu'une saison en Élite 2, parce que mais derrière tu files mais du côté de la section.
Oui, c'est Henri Nieto à l'époque qui m'avait appelé parce qu'ils avaient besoin d'un second 10 pour suppléer David Ocagne. Donc, il m'avait contacté et du coup, j'avais eu cette occasion-là et je suis parti, quoi.
Alors, il y a 3 ans, tu étais à Riscle, et là tu te pointes pour être la doublure de David Ocagne. Alors, Pour les plus jeunes, il faut savoir que David Ocaña, à l'époque, on est en 97, 98, là. Mais c'était le 10 de l'équipe de France aussi. Voilà, donc Grand Chelem en 97 et 98. Et toi, t'es le gamin, là, qui arrive et qui défonce tout sur son passage.
Ouais, on peut... Ouais. Ouais, ouais, j'étais arrivé encore une fois sur la pointe des pieds parce que il m'avait dit que en gros que je jouais, que voilà, s'il y avait un problème ou si s'ils avaient besoin de moi, mais je me suis entraîné comme jamais et puis on s'entraînait tous les jours, donc j'étais pro à cette époque-là, je suis passé pro cette année-là, je m'entraînais à fond parce que j'avais 18 ans, 19 ans et je lâchais rien aux entraînements et puis un jour ça m'est tombé dessus parce qu'il y avait eu un petit souci à l'entraînement, et donc il m'avait fait intégrer le groupe, et j'avais joué au centre contre mon premier match, c'était contre Trévise en Coupe d'Europe, en Heineken Cup à l'époque, au Hamon.
Donc ton contrat pro, tu le signes pour combien de temps? Le premier, c'est quoi? C'est 2 ans?
2 ans, ouais.
Avec espoir de prolonger derrière, ou tu voyais déjà peut-être plus loin?
Non, à l'époque, pour moi, 2 ans, déjà, c'était énorme. Je ne savais pas comment ça allait se passer, puisque c'était le début du rugby pro. Donc, on ne savait pas du tout où est-ce que ça allait mener, quoi. Donc, voilà, déjà, 2 ans, c'était énorme. Et puis après, au bout de 2 ans, j'avais Castres qui m'a contacté pour... c'était l'époque de la Coupe du Monde. Thomas Castagnel partait à la Coupe du Monde à Castres et il cherchait quelqu'un pour le remplacer pendant la période de la Coupe du Monde, donc ils m'ont contacté et puis voilà, je me rappelle plus comment ça s'est fait, mais je me rappelle quelques détails, mais bon, ça s'est fait comme ça, quoi.
Ça va, tu passes de doublure de David Ocaña à doublure de Thomas Castagnel. Il y a pire.
Ouais, c'est sûr.
Il y a pire et j'imagine que tu te nourrissais de l'expérience qui t'apportaient ces mecs aussi.
Ah, mais pour moi, c'est énorme de jouer avec des mecs comme ça. Déjà, rien qu'à Pau. À Pau, le groupe qu'on avait, moi j'étais arrivé, je crois que je devais être le plus jeune. Que ce soit devant ou derrière, c'était que des joueurs d'expérience. Et on avait un groupe énorme. Et c'était... D'ailleurs, la première saison, on fait demi-finale de H-Cup. Je crois qu'on se qualifie pour le Dumanoir. Et on fait une saison énorme. Mmh. Et encore une fois, pour moi, c'était énorme.
D'ailleurs, cette année-là que tu fais à Castres, en 2000, vous êtes finaliste du Challenge européen et vous perdez contre le club que tu viens de quitter, la section paloise.
Mais c'est vrai. On fait... je crois que c'était à l'époque, c'était le Challenge Sud Radio. Hein, je ne sais plus comment ça s'appelait.
Peut-être.
Ouais, on fait finale contre Pau. Moi, je joue tous les matchs de poule ou quasiment tous, plus quelques matchs de phase finale. Et puis Thomas Castagnel était revenu après et j'avais pas été dans le groupe pour la finale. Mais voilà, ouais, c'est vrai qu'on avait joué la finale contre la section, contre le club que j'avais quitté. Quoi.
Tu aurais dû y rester un an de plus.
Ouais, c'est vrai qu'un an de plus, ça aurait été pas mal. Mais c'était une belle expérience quand même du côté de Castres aussi.
Ah oui, non mais clairement. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu ne passes qu'une saison à Castres. Pourquoi tu n'en as pas fait plus? Tu n'arrives pas à t'imposer là-bas?
Si, ça s'était bien passé. D'ailleurs, il voulait que je reste un an de plus. Mais à l'époque, du coup, j'ai Dax qui me contacte. Et c'est vrai que bon, je suis quand même très famille et très pote. Donc, Castres, ça faisait un peu loin. Je rentrais souvent, même en semaine, dès qu'on avait un jour off, je rentrais chez mes parents. Et puis voilà, donc j'ai eu Dax qui m'a contacté, je me rapprochais un peu de chez moi. Voilà, ça a été toujours un peu compliqué pour moi de partir. Donc à cette époque-là, déjà Castres, c'était très loin pour moi. Même si pas le bout du monde, c'était déjà très loin. Et donc j'ai eu l'opportunité à Dax et je suis parti.
Et grand bien t'en as pris, parce que là, c'est le début de ton explosion. T'as 23 ans et t'es enfin le titulaire au poste.
Ouais, c'est vrai. Jean-Louis Luneau m'avait appelé parce que c'est toujours pareil, quand il y en a un qui arrive, c'est qu'il y en a un qui s'en va. Et à l'époque, c'était Jeff Dubois qui était parti à Béziers. Donc, il cherchait un 10 pour le remplacer. Ils m'ont contacté. Je connaissais Jean-Louis Luneau de Pau. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Puis, c'est vrai qu'à cette époque-là, ça a été vraiment le club où je me suis fixé à ce poste-là. Parce que même à Castres, je jouais à l'arrière. Je n'avais pas joué au centre, mais je jouais arrière ou 10. Et à Dax, je me suis vraiment imposé et j'ai fait 2 saisons complètes en 10.
Cette première saison à Dax, elle se passe plutôt bien. Bon, vous ne vous qualifiez pas, mais vous ne vous faites pas peur pour le maintien. C'est plutôt bien parce que là, tu arrives dans une équipe qui a À la différence de Castres, peut-être, qui avait des ambitions très élevées, Dax, c'est plus, c'était plus déjà à l'époque du plutôt bas de tableau qui jouait le maintien, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est comparé à Pau et à Castres, c'était pas les mêmes ambitions. Mais quand Dax était bien structuré, on avait un très bon groupe, assez jeune, mais on avait des joueurs de très bonne qualité et on avait un super groupe à l'époque.
Ouais, ouais. Mais bon, ce qui est bien, c'est que vous vous faites pas peur, voilà, cette année-là. À la différence de la suivante, ouais. Parce que ben là, on est en saison 2001-2002. Ben là, vous terminez dernier de votre poule de top 16, parce que ben, à l'époque, c'était le top 16. Il y avait deux poules de 8, donc vous terminez 8e de la vôtre. Et derrière, il y avait play-off pour la première partie du tableau et play-down pour les autres. Et donc, vous jouez les play-down et vous n'arrivez pas à redresser la barre et vous descendez en Pro D2.
Ouais, c'est vrai que cette année-là a été beaucoup plus compliquée. Et malgré tout, play-down, on s'était pas trop mal sorti et je crois qu'on descend sur la dernière journée. Je sais pas si c'était pas contre La Rochelle d'ailleurs qu'on avait joué le dernier match.
Donc toi, t'es encore un jeune joueur, hein, t'as 24 ans. Est-ce que tu te dis, bon, je vais rester à Dax en Pro D2, on va essayer de remonter, ou alors tu te dis, ben, il faut partir pour continuer mon ascension en première division?
Alors du coup, là, à cette époque-là, j'avais commencé à prendre un agent qui, quand il avait vu comment se passait la saison, qui m'avait dit que Montauban, pareil, cherchait un 10 et du coup, m'avait mis en contact avec Xavier Pemeja et les dirigeants montalbanais. Puis voilà, donc du coup, c'était un des seuls contacts que j'avais à l'époque et c'était un club qui me permettait de rester au plus haut niveau. Donc j'ai saisi l'opportunité aussi de pouvoir continuer en top 16 à l'époque, quoi.
Je comprends, mais en tout cas, ben voilà, tu arrives dans un club qui, là, cette fois, vise très clairement le maintien et vous faites une phase préliminaire de top 16 qui est compliquée parce que là aussi, vous terminez dernier de votre poule. Et en play-down, vous redressez la barre et vous arrivez à vous maintenir.
Oui, c'est vrai. Première phase très compliquée. Et sur les play-down, on arrive à avoir le groupe qui retrouve les ressources nécessaires pour pouvoir aller chercher le maintien sur la fin de saison.
C'est ça. Et là, encore une fois, la deuxième saison, par contre, là, il n'y a pas de miracle. Parce que vous terminez dernier de votre poule préliminaire et redernier de la poule de play-down. Et là, ben, descente en Pro D2, quoi.
Ouais, la saison un peu cauchemardesque, on va dire. Puis voilà, donc là, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire personnellement, qu'est-ce que va faire le groupe. Et puis là, Patrick Bardot, le président de Montauban, avait pris les devants, a rencontré tout le groupe, parce que c'est vrai que malgré tout, même si on n'avait pas fait une bonne saison, on avait quand même un groupe extraordinaire. Et le président a rencontré tout le monde et a dit qu'il voulait vraiment conserver la grosse majorité du groupe pour pouvoir exister en Pro D2 et pour pouvoir remonter le plus rapidement possible. Donc c'est ce qui avait été fait. Et puis l'année d'après on fait une très belle saison en Pro D2. Alors on perd contre Aurillac, je crois, de mémoire, 22-21 sur un drop à la fin, en demi-finale à Sapiac. Donc là, ça a été un gros coup d'arrêt. Mais encore une fois, voilà, le groupe avait fait une saison énorme et vivait bien. Donc on est tous restés pour l'année suivante. Et là, l'année suivante, c'était
encore autre chose, tout à fait. Mais c'est vrai que pour revenir sur cette saison-là, votre première saison de Pro D2, hein, donc, ben vous terminez deuxième derrière au Toulon, qui monte directement. Comme tu le dis, vous perdez en demi contre Aurillac. Vous ne remontez pas, mais à titre perso, tu réalises une saison exceptionnelle parce que tu marques 397 points dans la saison. C'est invraisemblable.
Ouais, c'est vrai que là, c'était ces saisons-là, celles-là, puis celles qui vont suivre à Montauban, j'étais vraiment en très grande confiance et on avait, comme je dis, on avait un groupe énorme et on avait fait vraiment des matchs, c'était énorme.
Ah, c'est un truc de fou. Et bon, donc vous ne montez pas, mais la direction continue à mettre des moyens et vous continuez à vous équiper pour remonter vite. Et vous avez une équipe monstrueuse, pour en citer quelques-uns. Il y avait Yannick Caballero, Mathieu Clarkin, Cédric Garcia, Rida Jaouer. C'est la première saison de Grégory Arganez, justement, aussi. Il y avait le regretté Ibou Diarra,
Ibou, ouais.
Également. Et ben là, c'est une saison folle. Vous êtes complètement énorme. Vous marchez sur l'eau.
Ouais, là, c'est C'est une saison réussie, on va dire, comme beaucoup de joueurs en rêveraient. Je crois qu'on ne perd pas un match, ou on a peut-être perdu un au début de saison, je ne me rappelle plus exactement. Je ne sais pas si c'était pas à Colomiers ou. Bref, quelque chose comme ça. Et après, on n'en perd plus un. Jusqu'aux trois derniers où on va à La Rochelle, mais on est déjà sûr d'être champion. Et on avait fait la fête toute la semaine. C'est vrai qu'à l'époque, c'était. Ouais, là, on a passé une saison magique. Quoi.
Ouais, oui, parce que vous terminez donc champion de Pro D2 avec le record de points, hein, qui a ensuite été égalé par Lyon en 2014. Et vous marquez 117 points, 25 victoires, 1 nul et 4 défaites. Et effectivement, la première défaite qui vous suivra quasiment jusqu'à la fin de la saison, c'est contre Colomiers, qui était promu en plus à l'époque de Fédéral 1.
Je crois, et de mémoire, je crois qu'on avait joué contre eux à l'amical au mois d'août. Je ne sais plus, c'était pas Harry Berac, quelque chose comme ça. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on avait gagné 70 points et quelques à pas grand-chose. Et donc, ce deuxième match de championnat, on avait été à Colomiers. Alors, je pense que ce match amical ne nous avait pas trop servi, puisque du coup, on perd le match de championnat chez eux. Quoi.
Ça, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que, alors que Laurent Labitte était entraîneur au club depuis deux saisons déjà, cette saison-là, il y a Laurent Travers qui arrive et assiste à la naissance de ce duo invraisemblable.
Ouais, c'est vrai que pour eux aussi, c'était le début de leur entente. Et forcément, cette saison, comme je disais tout à l'heure, magnifique, a fait que pour eux aussi, ça a été le début d'une belle aventure. Quoi.
Et il paraît qu'aux entraînements, vous faisiez des petits jeux, même avec des supporters de temps en temps et tout.
Ouais, ça, c'était leur patte un peu. Il y avait des moments vraiment très cool où, justement, à l'échauffement, où c'était un peu. C'était la cour de récréation, quoi. Il y avait des gages, il y avait des. Les avants devaient sauter sur les trois quarts devaient courir. C'était vraiment. Il y avait de tout, quoi. Et puis, il y avait des gages, il fallait aller dire bonjour ou faire la bise à une supportrice ou un supporter qui était dans les tribunes. C'était du grand n'importe quoi, mais c'est ça aussi qui a fait que. Il y avait une très bonne ambiance et que le groupe s'est soudé. Quoi.
C'est sûr que ça doit beaucoup y faire. Et d'ailleurs, toi, tu finis meilleur réalisateur de Pro D2 avec 383 points encore. C'est dingue. Tu penses que tu es à la plénitude de tes moyens à cette époque-là?
Là, comme je dis, là, c'est vrai qu'on était, moi et l'équipe, on était vraiment en grande confiance et on avait l'impression qu'il ne pouvait rien nous arriver à cette époque-là. Quoi. Et je ne veux pas dire que j'aurais pu taper du gauche et que ça serait passé, mais voilà, c'est quand un buteur est en confiance et qu'il bosse aussi, bien sûr, et qu'il s'entraîne régulièrement, c'est quand même l'aboutissement de beaucoup de choses. Quoi.
Ah ben oui. Et vous remontez donc en top 14 en 2006-2007 et vous continuez sur votre lancée parce que pour un promu, vous terminez 7e juste après les classes qualificatives de H-Cup.
Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on montait et beaucoup nous prédisaient un peu une redescente en suivant. Quoi. Et on a déjoué un peu tous les pronostics et on se fait une très belle saison encore une fois et on termine 7e. Alors on pensait même se qualifier pour l'H Cup à l'époque puisqu'on pensait être repêché puisque c'était les 6 premiers qui étaient qualifiés et puis repêché le 7e. Mais à cette époque-là, ça s'était pas fait. Ils avaient repêché un club, je sais plus, anglais ou bref, bon voilà. Et cette saison est encore une fois dans la lignée de celle qu'on avait fait en Pro D2 quoi.
Eh oui, mais l'année suivante, donc en 2007-2008, vous terminez à nouveau 7e, et cette fois-ci, la 7e place est qualificative pour la H-Cup. Et donc, pour l'année suivante, vous y voilà. Toi, par contre, tu joues un petit peu moins.
Ouais, je joue un peu moins. J'avais eu quelques pépins physiques cette saison-là, et j'avais eu beaucoup de mal. Ouais. J'avais eu beaucoup de mal à m'imposer, j'avais eu du mal à récupérer, je pense que un peu fatigué peut-être aussi, et c'est vrai que cette saison était un peu plus compliquée pour moi.
Ouais, il y avait une confiance qui était rompue, il y avait quelque chose.
Un petit peu, ouais. Il y avait une cassure, je trouve. Voilà, j'avais encore 2 ans de contrat. Je pensais à l'époque finir ma carrière à Montauban, et c'est vrai qu'il y a eu une petite cassure. Il y a eu des choses qui se sont faites un peu dans mon dos aussi, et le recrutement de certaines personnes dont j'étais pas au courant et. Et voilà, on m'a envoyé un peu à droite à gauche aussi, moi, dans notre club, alors que je ne comprenais pas tout ce qui se passait, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu une belle cassure à ce moment-là, et j'ai senti que c'était le moment de partir.
Eh oui, parce qu'effectivement, après 6 ans à Montauban, tu cèdes à des sirènes, et pas n'importe lesquelles, parce que c'est celle du rugby club toulonnais. Tu quittes un club qui s'est qualifié pour l'Europe, certes, t'arrives dans un club ultra, ultra ambitieux.
Ouais, c'est sûr que Mourad Boudjelal avait recruté beaucoup de joueurs d'expérience et de renommée mondiale, et arriver dans ce club avec ces joueurs-là, c'était une expérience énorme pour moi, quoi.
Je sais que ta modestie t'empêche de les citer là, mais t'arrives dans le même wagon que des Jerry Collins, Sonny Bill Williams ou autre, quoi.
Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que pour revenir sur mon départ de Montauban, ça s'est fait... très rapidement, on va dire. Je ne veux pas dire que ça s'est fait en deux coups de téléphone, mais je ne sais pas si on peut revenir sur les anecdotes. Mais
bien
bon,
sûr, bien sûr.
À cette époque-là, on finit la saison. Tout porte à croire que je vais continuer à Montauban la saison suivante. On part en vacances. C'est l'année où je me marie. Et puis, en fait, la semaine juste avant mon mariage, en deux coups de téléphone, mon agent me dit, voilà, il y a Toulon qui souhaite te recruter. Mourad Boudjelal t'a appelé au téléphone. Est-ce que voilà, tu serais ouvert à un départ de Montauban? Mais à l'époque, c'est d'ailleurs l'agent de Romain, mon beau-frère, qui n'était pas mon agent à l'époque d'ailleurs, mais avec qui on a signé ce contrat, quoi.
D'accord. Mais Montauban, par ailleurs, te poussait vers la sortie aussi.
Oui, Montauban, j'ai cru comprendre. Enfin, c'est pas que j'ai cru comprendre, c'est que je savais, j'avais entendu parler qu'on me proposait dans certains clubs pour me pousser vers la sortie aussi.
Ouais. En fait, tu arrives dans un RCT qui vient de monter, de Pro D2. Donc, vous êtes promu en top 14 et ça s'est équipé comme jamais. Hein. Vous êtes un promu qui fait presque figure de favori dès le départ, d'autant que la première journée, vous battez le finaliste malheureux de l'année précédente, à savoir Clermont, et voilà, vous posez les bases dès le début.
Oui, c'est vrai que, comme tu dis, avec tous ces noms de joueurs de renommée mondiale, sur le papier, on aurait pu croire qu'on allait écraser le championnat, mais la réalité du terrain a été tout autre, parce que ça a été assez compliqué de créer une osmose entre tous ces joueurs. Et du coup, ça a été, même si on avait fait un bon début, ça a été un peu plus compliqué par la suite de la saison.
Ah, c'est vrai, parce que vous terminez 9e, ce qui n'est pas délirant, hein, pour un promu. C'est quand même bien de... Vous vous faites pas peur pour le maintien ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, bon, c'est le Toulon qui a recruté très solide. On pouvait espérer mieux. Mais en tout cas, ce qui est super, c'est que toi, t'es le 10 titulaire au poste. T'as énormément de temps de jeu.
Ouais, ça a été... Première partie de saison, ça a été un peu compliqué, puisque on a alterné quelques matchs. Et en fait,
avec qui t'alternais ?
Alors, il y avait Damien Vidal, il y avait Ramiro Pes qui était à l'époque là. Il y avait même Toussi Pissi qui pouvait jouer soit centre, soit 10. Et à l'époque, c'était Tanomaga qui entraînait. Et donc, c'est vrai qu'au début, avec tous les étrangers qu'il y avait, et notamment dans la ligne de trois quarts, c'était un peu compliqué pour moi d'arriver à m'imposer au milieu de tous ces joueurs étrangers, parce qu'ils jouaient déjà ensemble l'année d'avant. Donc, ça a été très dur pour moi de m'imposer. Mais au fur et à mesure, à force de les connaître, de commencer un peu... Je veux dire, à boire un coup avec eux, à sortir un peu avec eux. Et voilà, on a fait vraiment connaissance, on a sympathisé. Et après, j'ai senti que vraiment j'étais intégré dans leur groupe, quoi. Donc après, ça s'est beaucoup mieux passé. Et notamment aussi avec Tanomaga, puisque Tanomaga a entraîné en début de saison. Et après les difficultés qu'on avait, à rechausser les crampons sur la deuxième partie de saison à partir du mois de janvier. Et en fait, en décembre, j'avais été le voir et j'avais dit, bon, écoute... Que ce soit moi ou un autre 10, mais il faut que tu fixes quelqu'un à ce poste-là, parce qu'on a besoin de confiance, on a besoin d'enchaîner les matchs pour pouvoir être performant. Et je lui dis, c'est pas toi que je vais l'apprendre. Voilà, j'avais été à l'époque avec Tom Whitford, le traducteur. Et voilà, donc quand j'avais eu ce rendez-vous, je me suis dit, bon, on verra comment ça se passe. Et puis c'est vrai que le week-end d'après, j'étais pas dans le groupe. On va jouer à Montpellier, on perd. On part un petit peu en vacances, à la trêve de Noël, il y avait 5-6 jours de vacances. Et au retour, en fait, Tanomaga avait rechaussé les crampons, était à l'entraînement avec nous, avait recommencé à jouer. Et en fait, il m'a fixé au poste de 10. Et en fait, j'ai enchaîné là tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Et c'est vrai que là, à cette époque-là, je jouais avec Tanner Umaga au centre, avec Sonny Bill Williams au centre, avec Mafi Kefu. Je jouais avec des mecs énormes. Et c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué, mais sur la fin de saison, c'était une saison aussi assez rocambolesque, on va dire, mais on a bien fini, on a été chercher le maintien sur les deux dernières journées, c'était vraiment une belle saison.
Et tu dis que tu jouais avec Tana Umaga, Sonny Bill Williams et tout, c'est plutôt eux qui jouaient avec Sébastien Fauquet.
Ouais, non, c'est vrai que je crois qu'il y avait Marc Andreu qui jouait à l'aile aussi, et on était les deux seuls Français, quoi.
C'est quand même une drôle de particularité. Est-ce que tu maîtrises de l'anglais, toi ?
Alors, quand je suis arrivé à Toulon, très peu. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'apprends sur le tas et à l'entraînement, parce que alors, j'arrive de Montauban, où c'était un club vraiment très famille, où on avait un groupe très soudé, avec très peu d'étrangers, du coup. Et j'arrive à Toulon, où c'est tout l'inverse, en fait. Les entraînements sont parlés en anglais et traduits en français. Ça a été très compliqué au début, mais j'apprends sur le tas et voilà, j'apprends à jouer avec eux et j'apprends aussi la langue. Et voilà, ça a été assez compliqué, mais on s'en est bien sorti.
J'ai l'impression que tu as un tempérament assez posé, réservé, voire même timide, non ?
Oui, je suis assez réservé, assez timide. Et voilà, mais c'est vrai que au fur et à mesure de ma carrière, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris à me libérer un peu aussi sur le terrain, à communiquer beaucoup plus. Le fait d'avoir les médias aussi après les matchs, à parler devant un journaliste et tout, c'est... On apprend, on surmonte ses peurs, on va dire, et puis voilà.
Bien sûr. Et saison suivante, en 2009-2010, toi, t'es encore sous contrat au RCT, mais il y a un petit caillou qui arrive dans ta chaussure, parce que c'est l'arrivée de Johnny Wilkinson à Toulon.
Ouais, c'est vrai que... voilà, à l'époque, Johnny arrivait après ses différentes blessures, donc c'était un pari du président, mais un pari qui s'est avéré vraiment concluant, puisqu'il a retrouvé ses qualités physiques, tout son rugby, on va dire. Voilà, ça a été un peu compliqué au début, parce que les 6 premiers mois, on a enchaîné, on alternait un peu tous les deux. Puis après, quand il a vraiment retrouvé son niveau, c'est un joueur exceptionnel. Mmh.
Comment tu la vis, cette concurrence avec lui, parce que là on est quand même sur une légende du rugby, quoi.
Comment je la vis déjà de... ok, il est au même poste que moi, mais c'est un mec que j'admirais, quoi. Donc qu'il arrive dans le même club que moi, m'entraîner avec lui tous les jours, jouer avec lui, c'était quelque chose, encore une fois, c'est que un palier encore supplémentaire dans ma carrière. Et voilà, j'ai appris, c'était un mec, même en dehors du terrain, on a beaucoup communiqué. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés.
C'est vrai, il était dans la transmission aussi, dans le partage
Ouais, c'est un mec avec qui j'ai beaucoup accroché, on a beaucoup échangé. Il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de concurrence malsaine, quoi. C'était vraiment un bon mec.
Ça c'est top. Et il y a Johnny Wilkinson qui arrive, mais malgré tout, tu as du temps de jeu, parce que tu fais 14 matchs d'août en début de saison, à janvier, donc en gros sur une demi-saison, ce qui est tout à fait honorable. Il y a peu de feuilles de match sur lesquelles tu n'es pas au final.
Oui, je ne me souviens plus exactement, mais je sais que j'avais enchaîné pas mal de feuilles de match, après ou titulaire ou remplaçant, mais c'est vrai que j'étais quasiment tout le temps. Et voilà, mais après c'était aussi du fait que Johnny reprenait juste, il a fallu qu'il se remette de tous ses pépins physiques, de se remettre en forme, et voilà, et donc on a partagé le temps de jeu. Ouais.
Vous partagez le temps de jeu donc jusqu'en janvier, parce qu'en janvier, tu quittes le RCT, transfert à Bayonne avec effet immédiat.
Ouais, fait immédiat, parce que en fait, on avait joué à Bayonne le week-end juste avant. Enfin, je crois que c'est le samedi, même on joue le samedi, et en fait, je signe à Bayonne le lundi. Enfin, le dimanche, je suis revenu, et je signe le lundi. Ben, tout simplement parce que c'est vrai qu'à Toulon, ça a été une expérience énorme. J'ai vécu des choses que j'ai vécues dans aucun autre club, on va dire. Mais le coin me manque, me rapprocher de ma famille me manque aussi. Donc, j'ai l'opportunité, voilà.
C'est incroyable. Tu te dis pas un moment que tu veux quand même tenter le coup jusqu'à la fin de la saison à Toulon ? Parce que j'imagine que t'es installé, t'es avec ta femme en plus déjà à l'époque,
ouais,
vous
êtes
marié,
ouais.
Vous chamboulez tout du samedi au lundi.
Ouais.
C'est dingue, t'étais déjà en contact avec Bayonne ou ça s'est fait en 48 heures ?
Non du tout, ça s'est fait en 48 heures, on a joué, on a joué le samedi, Bayonne cherchait un 10 aussi, pour, ils avaient quelques soucis à ce poste-là. Du coup, le dimanche, mon agent m'appelle, il me dit, écoute, si Bayonne ça t'intéresse, on peut aller les voir. Et en fait, je rentre le samedi soir à Toulon et je repars le dimanche, je reviens à Bayonne pour voir le président et pour discuter. Et le lundi matin, en fait, je négocie avec Mourad Boudjelal mon départ, qui n'était pas opposé. Donc voilà, ça s'est fait. Philippe Saint-André, lui, était un peu, il n'était pas d'accord parce qu'il s'est dit... comment on va faire si jamais Johnny se blesse jusqu'à la fin de la saison, ça va être compliqué. Donc Mourad Boudjelal n'était pas opposé, donc voilà, je suis parti, ça s'est fait, ouais, on a pris la voiture, on est parti, on a essayé des affaires à Toulon, et ouais, ça a été assez... ouais.
C'est dingue. Tu fais le grand écart là, un peu j'ai envie de dire, parce que t'arrives dans un aviron bayonnais qui est malade, qui vient de remercier Richard Dourte pour mettre Christian Gageant à sa place, et toi tu tentes de redresser tout ça avec ton expérience toulonnaise auparavant, et ça passe pas, parce que vous terminez 13e du top 14, mais ça passe pas sur le terrain, parce que... le malheur des uns faisant le bonheur des autres, vous vous sauvez quand même parce que Montauban, ton ancien club, subit une double rétrogradation administrative.
Ouais, ça a été très compliqué. Ouais. Ça a été très compliqué. On avait, on va dire qu'on avait redressé un peu là-bas et puis sur quelques matchs. Et après, quand je suis arrivé, il restait 10 matchs. Et sur, je pense que sur 5-6 matchs, ça s'est bien passé. Et sur la fin, ça a été plus compliqué. Et du coup, on perd le dernier match à Montauban où on descend en Pro D2.
Ouais. Ouais, toi, ton acclimatation à Bayonne, comment elle se passe?
Elle se passe plutôt bien, mis à part le temps, on va dire. C'était sorti qui faisait beau ici. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé ici du jour au lendemain avec ma femme et ma fille à l'époque, on partait de Toulon où en un an et demi, j'avais pris... 4 ou 5 fois la voiture pour l'entraînement. On est arrivé ici au mois de janvier, il tombait des trombes d'eau. Ma fille, elle comprenait pas. À l'époque, elle était toute petite. Elle se disait, mais pourquoi il pleut autant ici? Et voilà. Mais bon, après, non, mon acclimatation, elle s'est bien passée. Je connaissais déjà quelques joueurs ici, et notamment un certain Titi Garcia avec qui j'avais voulu à Montauban pendant un paquet de saisons. Donc voilà, ça c'est.
Ça faisait la charnière.
Ça a été beaucoup plus facile. Ouais.
Donc vous vous maintenez sur tapis vert, comme on vient de le dire. Et la saison suivante, avec peu ou prou le même effectif, hein, vous faites une super saison parce que vous terminez 7e.
Ouais, c'est vrai que je me rappelle, on finit 7e et sur la dernière journée, on peut même se qualifier. Donc il fallait qu'on aille gagner, nous, à La Rochelle avec le bonus, je crois, à l'époque. Et il nous fallait un résultat, ça dépendait pas que de nous, mais il fallait que Toulon aille gagner à Montpellier ou quelque chose comme ça. Nous, on avait gagné à La Rochelle, mais on n'avait pas pris le bonus. Et puis, l'autre résultat n'était pas favorable non plus pour nous. Mais malgré tout, on finit 7e. Et c'était une des, j'ai envie de dire, une des plus belles saisons au niveau classement que l'Aviron ait fait depuis un petit moment.
C'est clair. Toi, à titre perso, tu as un petit peu moins de temps de jeu parce que y a Benjamin Boyer hein, qui est un poil plus jeune que toi, qui a 2 ans de moins que toi, hein, qui arrive et qui prend la place de titulaire.
Ouais, Benji est arrivé. Et c'est vrai que... il s'est imposé à ce poste. Et voilà, donc du coup, moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup moins de temps de jeu. Donc voilà, j'avais même joué un peu au centre sur la fin, puisque le dernier match, je jouais à La Rochelle au centre. Voilà, ça s'est moins bien passé, on va dire.
Tu avais signé donc pour 2 saisons
à... un an et demi à l'époque.
Ouais, un an et demi, ouais, tout à fait, de janvier à juin d'après. Tu as 34 ans. Est-ce que... l'idée soit de prolonger, soit de t'arrêter, soit de changer de club, te traverse l'esprit?
Alors ça a été un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été assez compliqué à cette époque-là pour moi et le club. Mais je sais que le club de l'Aviron a été aussi, il voulait prendre un virage un peu plus, on va dire, il voulait recruter... des joueurs, c'était l'époque où il y avait Bernard Laporte qui devait arriver, il y avait Alain Flelou, il y avait voilà, il y a eu beaucoup de changements et donc j'étais pas forcément dans les papiers et je pensais même arrêter le rugby à cette époque-là. Et là il y a mon agent qui me dit que La Rochelle et Vincent Merlin aimerait que j'aille les aider éventuellement à remonter en top 14.
Là où, où beaucoup auraient arrêté, parce que 34 ans, c'est déjà un âge très respectable pour arrêter une carrière pro, ben ouais, tu continues, tu fais tes valises, cette fois-ci, on s'éloigne un petit peu quand même de Castelnau-Rivière-Basse et direction le vieux port de La Rochelle.
Ouais, c'est vrai que c'était un peu inattendu, mais encore une fois. Mais voilà, ça a été bien réfléchi aussi. Et je me sentais bien physiquement. Je sentais que j'avais encore dans les crampons. Donc voilà, j'ai accepté le challenge de partir et de faire 2 ans de plus à La Rochelle.
Pour replacer là aussi, hein, La Rochelle à ce moment-là vient de descendre de top 14, donc fait figure de gros de la division de la Pro D2. Dès le départ, ça se passe bien. Vous vous qualifiez pour les demi-finales contre la section paloise et vous perdez.
Ouais, c'est vrai qu'on fait une belle saison. On se qualifie, on n'arrive pas à se qualifier pour recevoir la demi-finale. Jusqu'aux dernières journées, on avait bataillé pour recevoir cette demi et puis on n'y est pas arrivé. On se déplace, on va à Pau et là, on perd le match. Ouais. C'est fin de saison et pas de montée.
Et ouais, mais toi, de ton côté, un jeune homme. Hein. Tu te payes une deuxième jeunesse, t'es le maestro de Flandre. 30 matchs, 30 titularisations pour la première saison, 35 piges. C'est vraiment l'année où t'as le plus de temps de jeu de toute ta carrière, à 35 ans.
Ouais, je sais que j'avais beaucoup joué, mais je m'en rappelais même plus.
Mais plus de 2200 minutes, t'as joué. C'est incroyable.
Ouais, il m'avait fait confiance. C'est vrai que ça se passait bien. On avait un bon groupe aussi. Et puis voilà, on a enchaîné les bons résultats. Donc voilà, c'est vrai que quand. Je pense qu'à ce poste-là, il faut avoir de la continuité pour être en confiance. Et même au niveau du groupe, pour avoir des repères, c'est bien d'avoir toujours. Voilà, une même charnière ou à certains postes de pouvoir enchaîner. Quoi. Donc,
Ah oui, non, mais ça c'est sûr, mais il faut. Enfin, t'as la couenne dure quand même, parce qu'il faut y arriver à 35 ans à ce niveau de performance. J'imagine qu'ils n'étaient pas là pour te faire des cadeaux non plus, donc si t'avais pas fait la maille, t'aurais été remplaçant ou hors groupe. Là, t'es le taulier, vraiment, à 35 ans, comme tu l'as peut-être jamais été auparavant.
Oui, c'est vrai que j'ai tout joué, et puis. À l'époque, il y avait Patrice Colazo qui venait d'arriver avec Fabrice Ribérol. Et ils avaient besoin de s'appuyer sur certains joueurs. Et voilà, de par mon expérience, je pense qu'ils ont misé sur moi. Et je pense que je l'aurais bien rendu. Quoi.
Oui, parce que la saison suivante, en 2012-2013, bis repetita, vous vous requalifiez pour la demi-finale de Pro D2. Et vous la perdez à nouveau contre Pau, cette fois-ci dans un match très, très chaud.
Ouais, ça fait partie de certains matchs qui restent dans les annales pour beaucoup de monde. Ouais.
Ouais. T'avais envoyé, toi, un petit peu à cette demi?
Non. Non, je restais derrière.
D'accord. Bref, en tout cas, vous ratez deux fois le coche, hein, mais vous avez pris date pour les années suivantes. Mais toi, alors que t'as fait 60 matchs en deux saisons, ce qui est incroyable, surtout à ton âge, je le rappelle, parce que t'as à ce moment-là 36 ans, mais c'est le moment que tu choisis pour raccrocher les crampons au niveau pro.
Ouais, alors moi je regrettais, c'est un peu mon regret, mais j'aurais voulu faire un an de plus à La Rochelle parce que j'avais vraiment envie de connaître en fait le retour de l'équipe sur le port avec un titre ou une montée. Et c'est vrai que sur ces deux saisons, c'était un peu mon regret. J'aurais aimé faire une année de plus, et puis bon, voilà, les dirigeants souhaitaient et les entraîneurs souhaitaient se diriger vers d'autres joueurs. Plus jeune, ce qui est normal aussi, ce qui peut paraître normal pour pouvoir espérer monter après par la suite.
Ouais, et cette fois-ci, tu te dis pas je vais trouver un autre club, là tu te dis niveau pro, rideau, on arrête.
Hein. Ouais, si je continuais, c'était vraiment à La Rochelle. Quoi. Mm-hmm. Après, j'avais encore eu quelques contacts pour repartir ailleurs, mais j'avais notamment Grenoble qui m'a appelé, je me rappelle à l'époque, Carcassonne et Brive, mais ma femme. A été très patiente pendant toute ma carrière. Mes enfants, ma fille allait rentrer à l'école. J'avais pas envie de leur faire subir encore de repartir dans un autre club, de rechanger, pour les refaire changer après, un an ou 2 ans après. Voilà, c'était assez égoïste de ma part si jamais j'avais fait ça. Donc, j'en ai assez profité. Et c'est vraiment que, voilà, à ce moment-là, je décide d'arrêter au niveau pro Mais j'ai décidé pas d'arrêter le rugby non plus,
Ah
parce que
non.
c'est vrai que on avait acheté une maison en anglette à l'époque quand j'étais à Bayonne, et j'avais fait quelques entraînements en anglette à l'époque, et j'avais lié des liens avec le président d'anglette, et je lui avais dit, écoute, le jour où j'arrêterai le rugby, parce qu'il m'avait proposé de venir s'entraîner en anglette quand j'avais différents problèmes de contrat, et bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais il m'avait accueilli gentiment, je m'étais entraîné avec eux, et je lui avais promis que si j'en avais encore un peu à la fin de ma carrière, je viendrai jouer en anglette, quoi.
Bon, ben, t'es venu y jouer, mais même longtemps, on en parlera, hein, t'inquiète pas. Mais en tout cas, au niveau après rugby, est-ce que tu avais anticipé un petit peu l'après-carrière ou alors tu te jetais dans le vide là, après à 36 ans, après toute ta carrière?
Franchement, pas du tout, quoi. Je savais pas ce que j'allais faire. Du coup, mon agent m'avait proposé, à l'époque Nicolas Pironeau, m'avait dit, écoute, il faut qu'on se voit, qu'on discute, parce que j'ai peut-être quelque chose à te proposer. Et voilà, donc je lui ai dit, bah, ok, pas de problème, on discute. Et puis, il m'a proposé, en fait, d'accompagner les joueurs lorsqu'il faisait signer des joueurs dans des clubs. Au début, il me proposait de les accompagner dans les clubs et de les aider à trouver des logements, à trouver des écoles pour les enfants, de les accompagner en fait. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a plu, parce que moi j'ai apprécié quand il a été là, quand ça allait pas forcément à Toulon, que j'étais loin de chez moi. Il est venu quelques fois, et puis ça c'est... Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un soutien. Et donc c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur quand il m'a proposé ça. Déjà j'ai apprécié le geste, et puis en plus de ça, j'ai pris mon métier vraiment, enfin, ma mission, on va dire, vraiment à cœur, quoi.
C'est génial, mais tu étais un peu le grand frère, quoi. Le grand frère des joueurs.
Ben ouais, Nicolas travaillait beaucoup avec des filières étrangères, du coup, et quand ils arrivaient ici, ils étaient un peu perdus,
Eh
forcément. Donc, je pense que même pour eux, quand j'allais chercher à l'aéroport, que je les accompagnais, pour eux, c'était un plus, quoi.
oui. Bien sûr. Et tu as eu une carrière longue, pour le coup. J'imagine que tu as gagné de l'argent. Est-ce que tu avais investi? Est-ce que tu avais réfléchi à ça un petit peu?
Ouais, j'ai investi un peu dans l'immobilier. Après, j'avais investi ici aussi quand on a acheté notre maison. Voilà, oui, certes, j'ai gagné de l'argent, mais bon, on ne gagnait pas de l'argent comme on gagnait de l'argent au foot.
Bien
Et
sûr.
puis j'étais pas international non plus, donc j'avais pas un contrat non plus mirobolant, même si je gagnais très bien ma vie, hein, attention, hein. Mais voilà, pas assez pour pouvoir, à la fin de ma carrière, dire je vais rester tranquille à la maison, et voilà. C'est vrai qu'il y a une vie après le rugby, et donc voilà, il a fallu chercher, réfléchir, tester plusieurs choses, puisque j'ai travaillé aussi dans les assurances. J'ai eu une opportunité pour travailler dans les assurances. Pendant un an et demi, j'ai fait ça. J'ai fait pendant 3 ans avec mon agent. Pendant un an et demi, j'ai travaillé dans les assurances. Et puis après, un jour, j'ai eu une idée. J'habite à côté d'un lycée. Je me suis dit, bon, je voyais beaucoup de jeunes descendre en ville. Il n'y avait rien à côté du lycée. Et puis, je me suis renseigné, j'ai posé la question pour savoir pourquoi. Et en fait, je savais qu'ils allaient refaire les parkings, ils allaient avoir des locaux en dessous, et j'ai proposé de faire de restauration rapide. Sauf qu'il y a eu beaucoup de temps pour les travaux. Donc j'ai proposé de placer un food truck sur le parking et de voir si les jeunes étudiants étaient réceptifs. Donc j'ai investi, j'ai acheté un camion. Et puis les travaux pour le local, pour le restaurant devaient durer... un an et demi, en fait, ça a duré 5 ans. Donc, pendant 5 ans, j'étais dans mon food truck, et c'est quelque chose qui m'a plu, hein. Puis voilà, et là, ça fait maintenant, ça va faire quasiment un an que j'ai ouvert, mais ça fait un an et demi ou 2 ans qu'on a fait les travaux au restaurant où on est actuellement, et puis voilà, ça me plaît, puis ça commence à bien marcher, donc voilà, j'ai trouvé la suite de ma carrière.
C'est génial, et parce que mais ton food truck, en plus, il a cartonné quasiment dès le départ.
Ah, ça a été compliqué au
Ah
début,
ouais?
hein. Ouais, au début, bon, j'avais pas fait de pub, je savais pas trop où j'allais, même si j'aime un peu cuisiner, bon, je suis pas de la partie non plus, donc ça a été compliqué. Et puis j'avais ouvert en février, donc ici en février, c'est pas forcément la bonne période, donc j'ai enchaîné la pluie, une fois il y avait même eu la neige là, cette époque-là, où j'avais l'impression qu'en fait C'était le bon Dieu qui m'avait dit, attends, on va te mettre ce qu'il faut au début, si tu t'accroches, on verra. Voilà. Mais bon, j'ai pas lâché, comme sur le terrain. Puis ça fait maintenant 5 ans ou 6 ans que je suis là, donc ça va.
Magnifique. Et le restaurant en lui-même, aujourd'hui, qui est en dur, hein, un magnifique resto, et tu as toujours ton food truck que tu amènes sur des événements type fête de Bayonne, foire au jambon, tout ça, quoi.
Ouais, alors là, oui, j'ai fait des événements, des brunchs pour le lendemain de mariage, des fêtes d'école, beaucoup. Après, j'ai fait des crémaillères chez des personnes, chez des privés. Et l'année dernière, je me suis lancé, j'avais jamais demandé, puis l'année dernière, je me suis lancé, j'ai demandé pour faire les fêtes de Bayonne. Et du coup, ça a été accepté, donc ben, j'ai fait mes premières fêtes de Bayonne l'année dernière avec le food truck.
Et pour les auditeurs qui font les fêtes de Bayonne, je peux vous garantir que les tacos de Sébastien, ils épongent bien quand on a quelques pichets en trop. Bon, on a parlé de ce que tu fais actuellement en côté pro, mais c'est vrai que donc, quand tu redescends de La Rochelle, t'arrêtes le rugby professionnel, mais t'arrêtes pas le rugby du tout, parce que tu l'as dit, t'avais promis au président d'Anglet de rechausser les crampons un petit peu, et c'est quelque chose que tu fais immédiatement, d'abord en Fédéral 2.
Ouais, quand j'arrive, on est en Fédéral 2.
Donc on est en 2013 là.
Ouais, juillet 2013, donc je reviens, et comme j'avais donné ma parole au président, je lui avais dit que quand je reviendrai à Anglet et pas ailleurs, si jamais j'avais encore les qualités pour pouvoir jouer encore au rugby. Et du coup, je l'appelle et je lui dis, écoute, voilà, j'ai encore envie de jouer, donc si t'es toujours d'accord, je veux bien venir jouer à Anglet. Et donc, on s'est mis d'accord tout de suite, puisque bien sûr, il était enchanté, que je le rappelle et que je lui dise ça. Il a vu que j'étais un mec de parole. Et puis, j'étais parti pour faire un an, voire peut-être deux. Et puis, en fait, comme j'en ai jamais assez, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis au club, quoi.
Et oui, parce que tu fais cette première saison en Fédéral 2. Tu en fais une seconde derrière en Fédéral 2. Et je me rappelle, il y avait notamment Rob Lindeux aussi.
Ouais, Rob, alors... À l'époque, il y avait des règles où on n'avait pas le droit de recruter plus de deux anciens joueurs pro. Et en fait, moi, j'étais arrivé et il y avait un autre joueur qui s'appelle Chabillard Gagnon qui avait un contrat espoir à l'époque à Biarritz. Donc, il comptait aussi comme joueur pro. Mais ça, le club d'Anglet ne savait pas. Ils avaient recruté Rob Lindeux après derrière, sauf que Rob Lindeux n'a pas pu jouer de la saison. Mais par contre, Rob aussi, c'est pareil, a vraiment joué le jeu et il a été super de ce côté-là parce qu'il a... Il a signé Anglet et il avait dit OK, je peux pas jouer en première, mais je fais toute la saison en National B, quoi. Pour les mecs, c'était énorme. Il a fait toute la saison en réserve.
C'est énorme.
Ouais, c'était énorme.
C'est génial. Et voilà, et toi, tu passes ces deux saisons en Fédéral 2. La deuxième, vous montez hein, en Fédéral 1. Et là, ben, tu passes en tant que joueur 6 saisons supplémentaires en Fédéral 1.
Ouais, voilà. On monte, la première année ça se passe, ça a été un peu dur, on doit redescendre et puis on est repêché sur tapis vert, je sais plus pour quelle raison exactement, mais bon, on enchaîne du coup une deuxième saison en Fédéral 1 et à partir de là on arrive à se maintenir, à progresser, à se maintenir sportivement tous les ans. Puis voilà, jusqu'à maintenant, on est en National 2. Quoi.
Eh oui, de ton côté, tu termines donc ta carrière pro. À La Rochelle à 36 ans et derrière tu joues encore 8 saisons, plus de 150 matchs à Anglet et tu raccroches définitivement les crampons en 2020 à 43 ans.
Ouais, je décide de raccrocher et à cette époque-là en fait j'ai mon ami Anthony Biscay qui était joueur aussi et qui s'est blessé au genou en décembre et qui par la suite a fini la deuxième partie de saison en tant qu'entraîneur. Et l'année suivante, en fait, il me dit, écoute, je veux que tu entraînes avec moi, quoi. Voilà, ça se passe super bien, on entraîne ensemble, et voilà. Alors que moi, de mon côté, je m'étais dit que jamais je passerais les diplômes d'entraîneur parce que j'avais pas envie de... Mais justement, comme j'avais pas mal bougé en tant que joueur dans ma carrière, je savais que si je passais les diplômes, peut-être que je serais amené à rebouger encore. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais pas envie de faire subir ça à ma famille encore, de me redéplacer. Et voilà, donc je le fais pas. Mais à cette époque-là, quand il me propose, lui, d'entraîner avec lui, voilà, ça m'a touché. Et du coup, j'ai accepté, j'ai entraîné avec lui. Alors, je garde quand même une licence de joueur à cette époque-là. au cas où il y a un souci, voilà, j'étais dit pour dépanner ou comme ça. Et puis bon, au bout de 3 matchs, il y avait des blessés, donc j'ai rechaussé les crampons.
Oui, enfin, ce que tu dis pas, c'est que c'est toi qui leur avait saboté, qui leur avait savonné la planche pour qu'ils se blessent et pour que tu puisses rejouer très vite.
Ouais, voilà. C'est possible.
Ouais,
Il y avait quelques années, il me disait, t'as mis des aiguilles dans les yeux poupées. Non, voilà. Donc, ouais, j'avais rechaussé les crampons et j'avais joué une mi-temps contre Bagnères à l'époque. Et du coup, ben, j'étais parti pour enchaîner puisqu'il y avait des blessés. Et puis le Covid est arrivé et ça m'a coupé l'herbe sous le pied, on va dire. Et comme beaucoup de personnes, ça fait beaucoup de mal, quoi.
bah, t'aurais très bien pu reprendre après le Covid.
Ouais, non, j'ai senti que là, ça suffisait, quoi.
Ouais, ça commence
Physiquement,
à tirer.
ouais, ça commence à tirer. Et puis les préparations physiques d'intersaison, c'était compliqué parce que comme je ne sais pas trop faire les choses à moitié, voilà. Mais c'est vrai qu'à 44 ans, du coup, ça devenait compliqué, quoi.
C'est quand même invraisemblable ce qu'on est en train de se dire. Hein. Comment t'expliques cette longévité, mais invraisemblable?
J'avais une bonne hygiène de vie.
Ouais.
Non.
Ah ben, ça tombe bien que tu en parles de l'hygiène de vie, mais je te laisse terminer pour la longévité.
Non, je sais pas. Ma famille, mon père et ma mère m'ont donné de bonnes compositions. Et puis je pense que j'ai eu une grosse partie de chance aussi dans ma carrière où j'ai pas eu de graves blessures. Donc voilà, ça a fait que j'ai pu continuer, enchaîner. Et puis je pense que mentalement, voilà, je me suis accroché aussi. Et je pense qu'il faut apprendre à vivre avec la douleur. Et puis voilà, c'est comme ça, quoi.
Ouais, ben, tu parles d'apprendre à vivre avec la douleur. Quand tu étais à Montauban, il y a une supportrice qui a appris à vivre avec la douleur aussi, quand vous jouiez contre le Stade Toulousain.
Ouais, j'ai qu'à l'échauffement, il y a eu des coups de pied qui étaient partis et ouais, il y avait certains qui étaient un peu au bord, qui badaient un peu des fois, qui ne voyaient pas les ballons arriver.
Paraît-il que. Mais qu'effectivement, à l'échauffement, une fois, tu as mis un grand coup de pompe contre le Stade Toulousain et c'est arrivé en plein sur une supportrice. Lumière éteinte, les pompiers qui sont venus la chercher et tout, il faisait 40 degrés, paraît-il.
Ouais, je me rappelle de ce moment-là, oui, où c'est vrai que la pauvre, elle avait je crois, une barquette de frites et un coca dans la main, et il y avait tout qui avait volé. Et ouais, j'étais m'excuser après, mais bon,
Elle est
malheureusement.
inconsciente, donc elle s'en souvient pas. Grégory Arganez m'a dit qu'il fallait absolument que je t'en parlais de ce passage-là, parce que lui, ça l'a marqué.
J'avais eu un peu le même cas à Toulon, une fois, où l'entraînement, on s'entraînait à taper en touche à la fin de l'entraînement, et voilà, c'était un peu moins marrant. C'est un petit qui était avec ses parents dans les tribunes et qui avait pris le ballon, et bon, c'est bon, ça s'était bien passé, c'était bien fini, mais c'est vrai que c'était compliqué, quoi.
Ah ben oui, en plus avec le coup de pantoufle que t'avais. Et oui, donc tu parles d'hygiène de vie, ça tombe bien, parce que ben Greg Arganez, encore une fois, m'a raconté qu'à partir d'une certaine heure en bringue, ben tu avais uniquement le forfait voyelle.
Ça m'étonne pas qu'il ait parlé de ça. Au bout d'un moment, comme j'ai un peu de mental, je m'accroche jusqu'au bout et jusqu'au dernier moment, et forcément, au bout d'un moment, ça devient plus difficile, quoi.
Oui, c'est dur pour se faire comprendre, mais ouais, c'est peut-être parce que tu parles à la mode toulonnaise de quand tu étais, tu peux dire que tu parles anglais,
Voilà,
et
c'est
puis
ça,
voilà.
c'est surtout lui qui comprenait pas mon langage, quoi.
Voilà, c'est sûr. Ah, purée. Et bon, c'est vrai que tu as passé quasiment un quart de siècle à haut niveau. Quand on se dit ça, je te dis, moi, ça me fait halluciner à chaque fois. Ça me file presque le vertige d'en parler. Quel regard tu portes sur déjà sur ta carrière?
Quel regard je porte sur ma carrière, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance, que j'ai eu des moments, comme je dis, j'étais là au bon endroit, au bon moment, et quand on a fait appel à moi, eh bien, j'ai répondu présent. Et j'ai jamais rien lâché, et voilà, c'est ce qui a fait que je pense que je suis né sous une bonne étoile et que j'étais là au bon moment, quoi.
T'as aussi ce regard d'acteur qui a vu ce rugby évoluer, hein, du monde amateur vers le rugby pro, jusqu'à maintenant très pro. Quel regard tu portes sur tout ça, toi, en tant qu'acteur, vraiment?
Ouais, c'est vrai que j'ai commencé ben, la première année où le rugby était pro, c'est quand la première année où j'ai signé à Pau. Et j'ai vu toutes les évolutions et physiques et financières et toutes les infrastructures, comment tout a évolué. Et quand on voit, quand j'ai commencé et quand je vois maintenant comment ça se passe, il y a vraiment un monde d'écart, quoi. Le rugby a vraiment beaucoup changé. Et encore, je ne parle même pas des années avant moi. Les anciens, quand ils voyaient le rugby, comme ils jouaient, comme ils s'entraînaient et comment c'est maintenant. Mais après, voilà, quel regard. Je pense que c'est une bonne chose. Quand on voit le rugby qui évolue, c'est vraiment des matchs spectaculaires comme on met là. Donc, je pense que c'est qu'une bonne chose pour le rugby. Après, c'est vrai que maintenant, ça devient assez violent en termes physiques. Et c'est vrai que ça fait. On peut croire que des fois que ça fait peur à certains jeunes et tout, mais c'est vrai que le rugby, c'est quand même. Ça apprend beaucoup de choses et ça forge aussi un homme, une personne. Donc voilà, c'est un très bon sport avec de très belles valeurs encore.
Ah ben oui, et toi, tu as commencé tout petit. Hein. Est-ce que tu as toujours ton regard d'enfant par rapport à ce sport ?
Regard d'enfant, je ne sais pas, mais je sais que j'adore ça. Quoi. Ouais, je regarde maintenant, je suis avec mon fils et c'est vrai qu'on regarde les matchs. Je vais voir mon fils jouer à l'école de rugby, je vais le voir s'entraîner. Voilà, maintenant, c'est plus à lui de jouer qu'à moi. Et voilà, mais ouais, je le suis de très près, on va dire.
Ouais. Tu l'as expliqué, hein, suite à l'arrêt de ta carrière en 2020, tu es devenu entraîneur à Anglette, donc tu as passé tes diplômes, tout ça. Est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as, dans un coin de la tête, mais le fait de revenir dans le monde pro, peut-être ?
Alors, comme je te disais tout à l'heure, j'avais passé, à l'époque, quand j'étais à Castres, j'avais passé le BE pour entraîner, parce qu'à l'époque, c'était un peu la mode, on va dire. Quand on avait un peu de temps de libre, on passait le BE pour être entraîneur. Sauf qu'à l'époque, j'étais le petit jeune de la session et du coup, je ne l'avais pas eu. Il y a quelques anciens qui étaient plus proches de leur fin de carrière et qui avaient eu le BE, donc je sentais que ce n'était pas le moment de le passer. Donc j'avais été un peu écœuré et j'ai jamais repassé en fait de diplôme. Et là en fait j'entraîne, mais j'ai diplôme fédéraux, mais j'ai pas de brevet d'état ou quoi que ce soit. Quoi. Je suis justement avec mon pote Anto là, et c'est lui à l'EBE et voilà, donc on se complète, on va dire. Mais comme je disais, à la fin de ma carrière, j'avais pas repassé justement parce que je voulais couper aussi un peu avec le rugby et voilà, mais c'est vrai qu'un poste d'entraîneur d'intégrer un peu un staff aurait été une chose aussi qui aurait pu me plaire. Quoi.
Il n'est pas trop tard.
Non, c'est pas trop tard, mais pendant 2 ans, j'étais consultant pour le jeu au pied à l'aviron. Et ça, bon, c'est quelque chose qui m'a plu. J'ai apprécié ces 2 années-là, être au contact des joueurs et arriver en complément des entraînements qu'ils faisaient la journée. Et voilà, j'étais une personne extérieure, donc pour eux, ça leur changeait un peu de leur quotidien aussi. Et on bossait, on faisait les bonnes séances et c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Hein.
Et on n'en a pas parlé, mais tu avais un plat signature quand même quand tu jouais cette passe inversée.
Ah, ça a marqué beaucoup de monde. C'est vrai que je croise beaucoup de personnes qui me rappellent de ça. Et même des gens que je ne connais pas et qui me disent « Ah, Fouquet, la passe inversée !» Voilà. Donc, ouais. Pourquoi, je sais pas, depuis tout gosse, je fais la passe inversée. Je sais pas comment c'est venu.
Ouais, explique un petit peu aux auditeurs à quoi ça consiste. Hein.
Ben en fait, quand on a le ballon dans les mains, qu'on fasse la passe à droite ou à gauche, on garde les mains positionnées pareil. Voilà, on pousse toujours avec la main droite, en fait. D'un côté, on pousse avec la main droite, et de l'autre, on fait la passe inversée, mais on pousse toujours avec la main droite.
C'est quelque chose qui t'a toujours suivi.
Ouais, depuis tout gosse, à l'école de rugby, j'avais commencé comme ça, et puis et voilà, ça a suivi toute ma carrière. Après, il y a un entraîneur qui avait essayé, Laurent Labitte, à l'époque, à Montauban, il avait essayé de me faire changer. On avait fait une semaine d'entraînement, et il a dit, bon, ouais, laisse tomber, continue comme ça, et puis voilà.
Si ça marchait bien, pourquoi arrêter ? C'est quoi ta vie aujourd'hui ?
Ma vie aujourd'hui, elle est... Déjà, je suis très pris par le boulot et par le rugby. Et après, le peu de temps qui me reste, j'essaye de le passer avec ma femme et mes enfants. De temps en temps, quand on a un petit moment, on rentre voir nos familles. Moi, j'ai mon frère qui est sur Montauban et je ne le vois pas souvent. Donc, de temps en temps, quand il rentre chez mes parents, on essaye de redescendre aussi. Voilà, mais c'est ça. Et puis, passer des moments entre amis, quoi. J'ai mes potes qui sont dans le coin aussi. Dès qu'on peut, on se fait un repas, une soirée. Et voilà, c'est tout. C'est très simple, mais...
Les plaisirs simples, ouais.
Exactement.
Trop bien. Qu'est-ce que t'aimes faire par ailleurs? Est-ce que t'as des passions?
Des passions... à l'époque, je pêchais beaucoup.
Ah ouais?
J'adorais la pêche. Mais je n'ai plus le temps du tout d'y aller. Voilà. Sinon, après, j'aime bien partager des moments avec mes amis et surtout avec ma famille.
Mmh. Paraît-il que t'es un gros joueur de cartes?
Ouais, plus maintenant, parce que c'est pareil, j'ai plus le temps et on... Bon, dès qu'on a un petit moment, on fait... on tape un peu le carton, on va dire. Mais oui, à l'époque, quand on faisait beaucoup de déplacements, on montait dans le bus, on jouait aux cartes. Et jusqu'à ce que le bus s'arrête, on jouait aux cartes.
Vous jouiez à quoi?
Bah, à l'époque, on jouait au poker, on jouait à la bourre, à la couinche. Mmh. Voilà, on avait pas mal de jeux. Ouais.
C'est des jeux qui ont vécu dans les bus de rugby.
Ouais, c'est vrai que... Ouais, heureusement qu'on avait ça aussi.
Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément tout le monde qui allait écouter son smartphone ou qui regardait la tablette ou autre. Hein. Là, c'était beaucoup de jeux, mais je crois que ça se fait encore quand même.
Bon, je pense qu'ils jouent encore, oui. Mais après, c'est vrai que maintenant, une nouvelle technologie et tout, il y a beaucoup qui ont les ordinateurs, les tablettes, les casques sur les oreilles. Alors, je trouve dommage parce que c'est vrai que quand on part en déplacement, c'est un moment où on peut changer avec les potes. Et bon, voilà, c'est...
Bien sûr. Et bon, donc tu l'as dit à plusieurs reprises, tu es marié. Il y a longtemps que tu es avec ton épouse?
Ça doit faire une vingtaine d'années.
Ouais. Ça, c'est la question piège quand il faut réfléchir.
Exactement,
comme ça,
exactement. Je ne sais plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on est mariés depuis le 12 juillet 2008.
Ouais.
Là, tu n'as pas mis vraiment.
Mais... pile 10 ans après le titre des Bleus en Coupe du Monde.
Exactement.
Magnifique.
Ouais.
Et comment elle s'appelle?
Stéphanie.
Ouais, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie?
Alors, elle est esthéticienne, mais depuis qu'on a ouvert le restaurant, elle travaille aussi avec moi.
Ah ouais?
Ouais.
Elle est esthéticienne et travaille avec toi ou elle bosse juste avec toi?
Non, elle continue son activité aussi et elle vient travailler avec nous. Elle arrive en fin de matinée, elle fait le service avec nous et voilà. Et après, elle se gère ses rendez-vous comme elle veut. Donc, elle s'organise son planning comme elle veut.
Et pendant ta carrière, elle a mis la sienne entre parenthèses un petit peu ou elle a vécu une vie pro aussi?
Alors, elle avait un petit peu travaillé à Montauban. Dans un institut, mais après quand j'ai bougé forcément et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure que ça aurait été égoïste sur la fin de ma carrière que je retrouve un club, c'est pour ça que je lui tire mon chapeau parce qu'elle a été patiente et elle m'a suivi partout, elle s'est occupée de nos enfants et voilà quoi, elle a profité aussi de pouvoir être avec nos enfants et c'est pour ça que je la remercie parce que c'est vrai que voilà, c'est pas simple.
Ah oui, j'imagine bien. Et donc, vu qu'elle vient t'aider, tu dis, t'as plusieurs fois dit « on » aussi quand tu parlais du restaurant. Vous êtes combien à bosser ici?
En fait, j'ai un cuisinier juste et voilà, on est à trois.
Ça doit envoyer. Quand les jeunes, ils sont en pause là,
ouais, voilà,
ça doit
après,
débiter.
Bon, l'amplitude horaire est assez grande, mais c'est vrai que quand ils arrivent le matin, quand ils ont leur création de un quart d'heure, c'est le rush. Et après, ça repart, il n'y a plus personne. Et après, ça arrive à midi. Et puis, ils veulent tous manger à midi pile, forcément. Donc, voilà, ça ne dure pas longtemps, mais c'est intense.
Ouais, ouais, je comprends. Et donc, tu as deux enfants, un garçon, une fille, c'est ça?
Ouais, Cléa, qui a 17 ans, qui est d'ailleurs au lycée ici.
Je surveille un petit peu.
Ouais, moi, je ne vois pas trop. Elle ne veut pas trop se montrer. Et Jules, qui est au collège, qui est en quatrième à Andara, ici, et qui a 13 ans. Ouais.
Trop bien. Et ils sont sportifs?
Alors, mon fils, oui, qui fait du rugby, et qui, pareil, un peu comme quand j'étais gosse, quand on joue ou quand on a un match, il vient, il joue avec ses potes, ou ils font ramasseur de balles, ou voilà, ils courent. et il fait du rugby à l'école de rugby à Anglette. Et ma fille, pas très sportive. Pas très sportive, elle fait un peu de crossfit ou de voilà, mais sinon elle fait pas de sport collectif, elle fait pas de sport à côté, mais voilà.
Crossfit, sacré sport hein, quand même.
Ouais, crossfit, plus ou moins dans sa chambre.
D'accord.
Et, voilà,
ok.
Mais, ouais.
Ok. Et ton fils voudrait voir plus loin niveau rugby?
Pour l'instant, je pense que ça lui convient. Après, je sais qu'il aimerait, mais il n'est pas forcément. Féru de... Je pense que s'il joue avec ses potes, déjà, c'est C'est l'essentiel, quoi. Après,
c'est ça le plus beau. Hein.
Oui, c'est sûr. C'est sûr, après, il a eu des déclics depuis tout petit. Il avait commencé, après, à jouer au rugby un peu. Il y allait, mais il n'avait pas forcément s'entraîner tout le temps. Il n'avait pas trop envie. Et en fait, un jour, il a eu un déclic. Il a compris que, ben, en gros, que j'avais joué, que j'avais à haut niveau, que j'avais joué comme Bayonne, que j'avais... Et là, je sais pas, il a eu un déclic et il s'est mis à fond dedans. Et voilà, il s'est mis à rentrer des fois entre midi et deux, à regarder des matchs à la télé. Et voilà, donc j'espère que. Mais bon, après, je suis pas à le pousser quoi que ce soit. Il fait ce qu'il veut, il fait du rugby. J'en suis le premier content, mais qu'il se fasse plaisir. Et puis voilà, s'il fait un autre sport, il fera un autre sport.
Ouais, t'es pas le papa lourd qui arrête pas pour. Ouais.
Pas du tout.
Ok. S'il s'y met aussi à haut niveau et qu'il a la même longévité que toi, on va se taper juste à deux un demi-siècle de... un demi-siècle de Fouquet à haut niveau. Quoi.
Ouais, non, des fois j'aimerais qu'il me demande quelques conseils ou j'aimerais lui donner des conseils, mais je sens que des fois, si je lui dis quelque chose en rentrant d'un match ou comme ça, ça peut l'agacer un peu, donc je préfère rien dire. Et...
Souvent, la charnière, elle est vraiment vers... 15, 16, 17 ans, soit ils veulent se diriger vers le haut niveau et tenter de faire au mieux, soit ben, ils lâchent un petit peu. Peut-être que c'est à ce moment-là que tu pourras plus échanger avec.
Ouais, je ne suis pas inquiet.
Ouais. Trop bien. Et alors, ça va être, je pense que tu auras du mal à répondre à cette question, hein, parce que, on l'a dit, hein, tu as du kilomètre au compteur. Quel est ton plus grand souvenir de rugby?
Ah ouais. Le titre avec Montauban. Le titre avec Montauban, et peut-être, j'ai envie de dire, un des matchs les plus aboutis de ma carrière et auquel j'aurais pu faire n'importe quoi, je pense, aussi. Et on avait joué, cette année-là, on avait joué à Tarbes, et je crois que j'avais marqué 34 points le match. Essai, drop, pénalité, transformation, j'avais marqué 34 points.
Le full house.
Ouais, ouais.
Énorme.
Et c'est vrai que cette fois-là, on avait gagné là-bas, mais... c'était assez serré, mais c'était vrai que ce jour-là, quand même, c'était énorme. Mais...
Et t'as crucifié l'équipe de la ville où tu es né.
Ouais. et la ville où j'ai jamais joué. T'es joué chez le rival à Lourdes, mais pas tard.
C'est vrai. Et d'ailleurs, t'aurais jamais eu envie d'aller y jouer, même en fin de carrière, tu vois. Je suis sûr qu'ils auraient été contents de t'avoir.
Ouais, mais j'ai jamais eu le contact, forcément. Bon, ça m'est jamais venu trop à l'idée, en fait.
Ouais. Selon toi, quel pourrait être l'adjectif qui définirait au mieux ton caractère ou ta façon d'être?
Persévérant, je sais pas. Quand j'ai quelque chose en tête, je lâche pas, quoi.
T'es tête
ouais.
Dure.
Ouais. Même si je le fais pas forcément voir, quand je veux quelque chose, je fais tout pour y arriver, quoi.
Ouais. Est-ce que tu te trouves plutôt talentueux dans ce que tu fais ou tu as besoin d'énormément travailler pour y arriver?
Ouais, j'ai beaucoup besoin de boulot. Et c'est sûr que plus jeune, quand on était par exemple, je prends l'exemple de quand j'étais un junior en sélection à Bigorre, il y avait des joueurs qui étaient beaucoup plus talentueux que moi et à qui on prédisait un avenir et des carrières sportives voilà, énormes. Et en fait, c'est des mecs qui se sont perdus après quand ils sont montés en senior et qui ne sont jamais arrivés à franchir le cap. Et à côté, moi sur qui on n'avait pas misé un franc à l'époque, je veux dire, j'ai fait une plus grande carrière parce que je me suis accroché, comme je dis. J'étais là au bon moment, j'ai eu des opportunités. Quand on a fait appel à moi, puis je voulais tellement y arriver que quand j'ai commencé à y goûter et que je voulais y arriver, comme je disais, j'ai bossé dur, mais ça a payé, quoi.
Ah oui, un petit peu que ça a payé. Et est-ce que dans ta vie, rugbystique ou civile, hein, y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré?
Il y a des personnes qui disent qu'ils avaient un modèle rugbystique, En fait, moi, je suis ouvert à tout, en fait. Je m'inspire un peu de tout le monde et j'ai pas forcément de modèle ou... Voilà. J'ai pas de personne qui me vient...
Ouais, t'as personne en particulier, mais tu pioches un peu partout où tu trouves des bons trucs.
Ouais, voilà. Après, quand... rugbystiquement, enfin, je veux dire, quand je suis passé à Toulon, même quand j'étais à Pau, quand j'étais à Castres avec Castagnède, avec Hugo Mola, avec Olivier Saraméa, à Pau avec David Ocagne, quand j'étais à Toulon avec Tano Moga, avec Sonny Bill Williams, avec Wilkinson, j'ai pioché un peu de partout. Je sais pas, j'ai pas forcément une personne en particulier qui pourrait être mon idole, on va dire.
Ouais.
Mais voilà.
Et hors rugby, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été qui t'a beaucoup inspiré, qui a été ton modèle ou
Non, ah, plus loin, j'ai pas.
Il y en a, ça peut être les parents, tu vois.
Mais exactement, tu... c'est ce que j'allais dire. C'est pas forcément que, mais ma famille, mon père, ma mère, mon frère, c'est. On n'a pas une grande famille, mais voilà, c'est beaucoup pour moi, quoi. Si j'en suis arrivé là, c'est grâce à eux, quoi.
C'est pas pour rien que tu rentrais tous les jours de repos depuis Castres pour,
ouais, c'est ça.
Pour aller les voir.
Ouais, ouais. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal à quitter le cocon familial, mais voilà.
Bon, et tu y reviens encore très régulièrement.
Oui, oui, bien sûr. Ben, j'ai ma belle famille qui est pas très loin de chez moi aussi, donc c'est vrai que quand on rentre, on va un peu chez moi, un peu chez ma belle famille. Et voilà, comme ça, tout le monde est content.
Exactement. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a spécialement marqué ?
Ben à l'époque, quand on était à Montauban, c'est vrai que Laurent Labitte et Laurent Travers, quand même, ça a été un moment où on a passé des saisons extraordinaires. Donc voilà, mais encore une fois, je dis ça parce que c'est deux saisons extraordinaires, mais quand Xavier Pémeja m'avait fait venir, Xavier, c'est quelqu'un avec qui j'ai accroché énormément. Voilà. À Toulon, il y avait Tano Maga, il y avait Jean-Jacques Renka. Quand je suis arrivé à Bayonne, il y avait Thomas Lièvremont. C'est partout où j'étais, quoi. Il y a eu du bon, du moins bon, mais de toute façon, il faut faire avec. Donc,
oui, c'est sûr.
Donc voilà, on essaye de faire au mieux.
Exactement. Quelle est la plus grosse claque ou la plus grande leçon que tu as prise dans ta vie ?
Ça, c'est des trucs auxquels j'ai du mal à répondre, quoi.
Ah ouais ?
Je sais pas, c'est pas des choses qui me viennent comme ça. J'en ai pris beaucoup. Mais j'ai toujours su faire face, toujours me relever. Et voilà, parce qu'il y a eu des moments très compliqués dans ma carrière sportive qui ont fait que... Voilà, que ça a été compliqué et qu'il a fallu, encore une fois... Mentalement, je pense être fort pour pouvoir continuer. Et voilà, donc je me suis accroché, je suis passé à autre chose, j'ai travaillé, j'ai encaissé et puis je suis reparti de l'avant.
Ouais, tu fais référence à quoi en particulier ?
Bah, ça serait beaucoup trop long à expliquer, mais à Toulon, ça a été compliqué. Voilà, à des moments, quand on doit changer de club, quand on n'est plus peut-être forcément désiré, ou pour moi, ça fait mal parce que c'est... Je suis quelqu'un qui... j'aime la confiance, j'aime les choses claires. Et c'est vrai qu'il y a des moments où... voilà, ça a été compliqué après à Bayonne. Il y a des choses que je trouve dommages. Mais après, comme je dis, voilà, c'est des claques qu'on prend et qui font grandir et qui font avancer aussi. Et voilà.
Ça, c'est important, je trouve, d'en parler parce que... Le grand public ne peut pas se rendre compte de ça. Les gens te voyaient pendant une éternité tous les samedis sur Canal+, sans savoir que derrière le joueur, sans se douter qu'il peut y avoir toutes ces complications, des fois tu puisses être un petit peu tourmenté et autres. Non, les gens ne voient que le gars qui a un coup de pompe de 70 mètres, quoi. Donc, c'est bien aussi de dire et de montrer que non, tout n'est pas rose et que parfois, plus que dans la vie pro classique, t'as ton poste qui est remis en cause quasiment tous les week-ends.
Ouais, c'est sûr que les gens ne se rendent pas trop compte des efforts que ça demande. Alors certains, oui, ils voient les matchs, qu'on est joueur pro, qu'on vit de notre passion, qu'on touche quand même relativement beaucoup d'argent. Mais on subit beaucoup de pression. Voilà, c'est pas tous les jours rose et loin de là. Et voilà, donc c'est des remises en question perpétuelles, et notamment aussi à certains postes comme le mien, quand on est beaucoup exposé. Alors forcément, quand ça gagne, des fois on est un peu plus en lumière que d'autres, mais quand même, le rugby, ça reste toujours quand même un sport collectif. Et voilà, mais quand ça se passe mal, c'est sur nous aussi qu'on tape. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'à des moments, ça a été très compliqué. C'est comme ça, on est sur un poste où on est leader de jeu, où beaucoup de choses, le ballon passe par nous très souvent, et c'est nous qui sommes les maîtres du jeu, entre guillemets. Et donc voilà, il faut accepter aussi, il faut accepter ça. Si on accepte de jouer à ce poste, c'est parce qu'on aime ça aussi, quelque part. Hein. On est un peu maso, mais bon, mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce poste. Mais c'est pas toujours facile.
Ah ça. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier dans ta vie?
L'accomplissement dont je suis fier, c'est ma famille, mes enfants.
Ouais. T'en parles avec émotion, hein? On voit que la famille, pour toi, c'est capital. D'abord ceux qui t'ont vu grandir dans les Hautes-Pyrénées, puis maintenant, celle que t'as fondée. Bon, on a fait une mini-pause. Est-ce que t'as des regrets dans ta vie?
Des regrets, non. Non, je n'ai pas de regrets. J'essaye de ne pas en avoir. Hein.
T'as toujours fait ce que tu pensais être juste.
Oui. Après, je pense que, comme je disais, j'ai eu des opportunités. Ça, c'est toujours... J'ai suivi le fil, en fait. Et, jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Voilà, il y a des choses que je n'ai pas forcément bien faites et d'autres mieux, mais bon... C'est comme ça.
Bah oui, bah après, tout t'a amené de l'expérience, quoi qu'il en soit.
Ah oui, bien sûr. On acquiert de l'expérience au fur et à mesure de la vie, et puis voilà, ça fait avancer.
Exactement. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Ce sont pas faciles, les questions.
Ouais,
hein,
c'est vrai. Ne jamais rien lâcher. Si on lâche un moment, on sort de... du truc, et puis on pense, enfin, c'est terminé. Enfin, au niveau du rugby, on va dire, si on s'accroche pas et qu'on n'est pas constant, on n'y arrive pas, ou ben on sort du truc, et puis après c'est terminé, quoi.
Si tu pouvais reparler au petit Sébastien, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ça, c'est des trucs, je sais pas. Il y a eu tellement de choses. Continue, vis ta vie à fond et voilà. Profite des moments, de tous les moments, et puis voilà.
T'en as profité des moments?
J'en ai beaucoup profité, ouais. Franchement, j'ai eu partout où je suis passé. Il y a eu, comme je disais, des bonnes choses, des moins bonnes, mais j'ai beaucoup profité. Donc c'est pour ça qu'à la fin, j'ai dit stop, j'ai assez profité, maintenant on va se poser, et puis. Voilà.
Puis on va retrouver les consonnes en soirée un petit peu quand même.
Ouais,
si on a marre de faire que des voyelles.
C'est ça. Ouais.
Quels sont tes rêves aujourd'hui?
Mes rêves, je n'aime pas forcément. Après, j'ai envie que, voilà, que tout se passe bien familialement, bien sûr, que mes enfants réussissent, que nous on réussisse dans ce qu'on a construit ici, et puis voilà, que tout le monde soit en bonne santé, que ma famille soit en bonne santé, et que voilà, c'est primordial. Après le reste, ça vient naturellement.
C'est quoi pour toi la réussite, hein?
La réussite, je pense que c'est d'arriver à faire ce qu'on veut et de... Je ne sais pas, rugbystiquement, je pense que j'ai réussi dans ma carrière à faire ce que je voulais, même si j'ai... On parlait de regrets tout à l'heure, je disais que non, mais oui, j'ai peut-être un petit regret dans ma carrière, c'est de ne pas avoir été international un jour. J'avais été international junior, mais je n'ai jamais été international avec la grande équipe de France, on va dire. Même si je ne suis pas passé très loin à un moment, mais bon, voilà, je n'ai jamais été, c'est un peu le regret que j'ai eu.
À quelle époque t'aurais pu?
C'est l'époque où on est monté en top 14 avec Montauban. J'avoue, je sortais des grosses saisons de Pro D2, où j'avais fait des bonnes saisons en top 14. Et je sais qu'à cette époque-là, j'avais mon nom qui circulait un peu pour partir en tournée, du moins. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé vivre un jour, quoi.
Ça aurait pas été volé.
Voilà, j'avais fait Barbarians, qui était une très belle expérience aussi, un très beau truc. Mais c'est vrai qu'une sélection en équipe de France, j'aurais vraiment aimé. Ouais.
T'avais joué contre qui avec les Babas?
On avait joué contre Rosario, une province d'Argentine. On était parti en Argentine. Et après, on avait fait un match contre l'Argentine.
D'accord. C'était pas une année où il y avait Thomas Lombard et tout?
Thomas, non, il n'y était pas. Non. C'était quand j'étais à Toulon, donc c'était en 2009.
D'accord, ok. Parce qu'il y a eu, je crois, plusieurs tournées en Argentine des Babas. C'est arrivé à plusieurs reprises.
Ils sont repartis après l'année d'après, oui. L'année d'après, ils sont repartis. Et d'ailleurs, il y avait mon beau-frère qui était. Mais ils avaient gagné contre l'Argentine.
Ah oh, purée, vous êtes croisés. Ça aurait été énorme que vous jouiez ensemble.
Un an après, je crois que c'était ça.
Ouais. Et comment tu l'as ressenti, cette sélection avec les Babas? Parce que c'est quand même magique.
C'est énorme. On m'en avait parlé, mais je pensais pas que c'était comme ça, quoi. C'est vrai que c'est... On est parti, du coup, on a eu la chance de partir 10 jours en Argentine. Mais ouais, on a vécu 10 jours exceptionnels, quoi. Mais le rugby, tout ce que j'aime, quoi. Le rugby et la fête, c'est énorme.
C'est ça qui est inouï, je trouve, avec les Babas, c'est que... Bien sûr, ça pourrait pas marcher toute l'année, mais là, c'est une période où des gars arrivent à bringuer et à jouer super bien au rugby.
Ouais, c'est vrai que on se demande, enfin, comme tu dis, ça peut pas durer sur une saison entière. Mais là, sur 10 jours, alors les matchs contre le premier match contre Rosario, c'était une petite province, donc le match n'était pas d'un grand niveau, mais. Mais jouer contre l'Argentine au bout d'une semaine, en ayant fait 5-6 jours de fête avant, c'est compliqué, mais ça reflète bien les valeurs du rugby aussi. Voilà.
Ça devait être magique. Et donc, tu as parlé un petit peu après de tes regrets, enfin de ce regret de ne pas avoir été international, mais globalement, tu as donné aussi une définition de ta réussite, de la réussite. Est-ce que tu penses avoir réussi, toi, dans la vie, jusqu'à maintenant?
Jusqu'à maintenant, je pense que oui, j'ai toujours réussi, comme je te dis, à saisir les opportunités que j'avais au moment présent. Et voilà, après, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais bon, pour l'instant, je suis ici. J'espère que ça durera un bon petit moment. Puis voilà, et puis après, si jamais il y a d'autres opportunités qui se présentent, on verra ce qu'on fait. Mais bon, pour l'instant, on est bien installé là et... Et ce restaurant, j'espère que ça sera une nouvelle réussite. Donc,
il n'y a pas de raison. Tu t'imagines en ouvrir d'autres, peut-être sous le même nom, à d'autres endroits et tout? Tu te vois grandir?
Alors déjà, j'aimerais essayer de bien développer ici. Mm-hmm. Même si ça marche bien depuis l'ouverture, je pense qu'il y a quand même moyen de faire beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. Donc voilà, mais après, pourquoi pas, et quand j'aurai stabilisé ici, et si ça marche bien, pourquoi pas essayer d'ouvrir quelque chose ailleurs, je sais pas. Il y aura peut-être une opportunité à un moment qu'il faudra saisir, et voilà.
Qu'est-ce qui te rend heureux?
Ce qui me rend heureux, c'est, on va y revenir, mais c'est toujours ma famille, hein, ouais. C'est toujours pareil. Les enfants, de voir grandir mes enfants, quand on part en vacances avec ma femme et les enfants, ou en week-end, ou voilà, moi je suis heureux, j'ai pas besoin de grand-chose en fait.
Qu'est-ce que t'aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi?
Ben, j'espère qu'ils retiendront que du bon de moi, on va dire. J'espère que je les ai marqués. Voilà, si, j'apprécie toujours croiser du monde que j'ai vu n'importe où. Quoi, donc, ça s'est toujours bien passé. Donc je pense que j'ai laissé une bonne image. Et c'est ça que j'espère, d'avoir laissé une bonne image de moi.
Et la vie des gens t'intéresse ou ça t'importe peu?
Ouais, ça m'intéresse, mais il y a des fois, j'ai pas envie de savoir même.
Ouais.
Et des fois, j'ai pas envie de savoir, mais quelque part, ça m'intéresse aussi, quoi.
Mmh, je vois.
Tu vois?
Ouais, ouais.
Parce que j'ai envie de savoir ce que j'en pense, mais si je le sais pas, c'est pas grave non plus.
Je vois l'idée. Bon, effectivement, hein, quand t'étais joueur, tu collais des grosses cartouches. Mais est-ce que tu as déjà mis une cravate?
J'ai pas en mémoire de mettre une grosse cravate à quelqu'un, mais des plaquages hauts, ouais, j'aimais bien me plaquer à l'épaule. Et d'ailleurs, je pense peut-être, je vais pas dire un des premiers, mais j'étais un des rares 10 qui plaquait au torse, quoi, on dira.
Ouais.
J'aimais bien envoyer le bras, pas des manchettes, mais bon.
Mais pas loin. T'étais le tongien de Castelnau-Rivière-Basse.
Ouais, il y en a quelques-uns qui me disent souvent, ouais, que j'aimais bien. Ouais.
Bon, eh bien c'est l'occasion, hein, du coup, maintenant de mettre une vraie cravate. Et je vais te demander la question rituelle. Je vais te poser la question rituelle. À quoi voudrais-tu mettre une cravate?
Une cravate, donc je pourrais dire un peu à tout ce qui se passe un peu dans le monde actuellement, que c'est la guerre en Ukraine, tout ce qui se passe un peu à droite à gauche. Je trouve qu'à notre période de voir ça actuellement, c'est plus enfin on doit de nos jours on devrait plus voir ça, quoi. Des gens qui meurent parce qu'il y a encore la guerre à notre époque, c'est pas normal, quoi.
Ouais, c'est sûr. Après, il y a tellement de choses à dire sur ça. Moi, je vais rien dire parce que ça peut être un sujet polémique sinon.
C'est sûr.
Mais je te rejoins tout à fait. Et on a la mémoire courte, hein, j'ai l'impression quand même, parce que c'était hier, hein, la Deuxième Guerre mondiale. Hein.
C'est sûr.
Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast?
Bah écoute, j'ai mon pote de la charnière de Montauban, et tu peux Titi Garcia,
Ouais.
voilà, c'est celui avec qui j'ai le plus longtemps joué, avec qui on a créé une amitié voilà, qui perdure depuis qu'on se connaît de Montauban. Donc voilà, j'aimerais bien que tu lui poses toutes ces questions aussi. Je pense qu'il sera ravi.
Ouais, en plus il est dans le coin, non, encore.
Il est à Montauban.
Ah, je croyais qu'il était installé sur la côte aussi.
Non, il avait habité ici quand il jouait à Bayonne. Après, il est reparti sur Montauban. Ouais.
D'accord, ok, compris. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant dans la vie?
Il travaille à la mairie. À Montauban, service animation, je crois, ou cérémonie, fête et cérémonie, donc
Parfait.
voilà.
Il fête beaucoup.
Ça lui va bien.
C'est relativement. Il y en a beaucoup moins qu'avant, hein, des joueurs qui arrivent à se replacer dans des mairies, des trucs comme ça. Avant, c'était mairie ou alors le club. Te débrouiller pour avoir un bar ou un truc comme ça. Maintenant, ça se fait beaucoup moins, hein?
Ouais, c'est sûr que maintenant. Dans les petits clubs, un peu plus.
Ouais.
Mais non, lui, il avait décidé d'arrêter. Quand il a arrêté sa carrière, il avait dit qu'il voulait rentrer à la mairie. Voilà.
Eh ben, parfait.
Donc il a réussi.
S'il est heureux comme ça, il me tarde d'aller le voir. Je suis sûr qu'il a plein de choses à raconter parce qu'il a une sacrée carrière.
Exactement, il a une belle carrière aussi.
Ouais. Il m'a. Eh ben, écoute, ce sera l'occasion de monter à Montauban. Bon, on a échangé, hein, sur beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet dont on a oublié de parler que tu aimerais qu'on aborde ensemble?
Non, pas forcément. Après, comme je te dis, moi, je suis pas quelqu'un de très expressif et de très bavard. Donc, voilà, déjà, tu m'as posé beaucoup de questions sur ma carrière, surtout. Voilà, non. Si je devais juste voilà, dire quelque chose, c'est comme je disais tout à l'heure, je remercie beaucoup ma famille, mes parents. Comme je disais, si j'ai fait la carrière que j'ai fait, c'est grâce à eux. Et puis, voilà, et ma femme et mes enfants, bien sûr. Donc voilà, je l'ai dit un peu plus posé maintenant, mais voilà, je remercie beaucoup et je remercie beaucoup ma femme aussi.
Magnifique. Eh bien, moi, je te remercie à toi. Merci d'avoir pris le temps pour ce moment, parce que la première fois que je t'ai contacté, tu étais un petit peu méfiant. Tu savais pas trop. Et finalement, on a passé un super échange, j'ai l'impression.
Ouais, bien sûr. Après, comme je te dis, c'est. Voilà, c'est pas contre ni toi ni d'autres, mais c'est vrai que les journalistes, pendant la carrière, on en voit tout le temps. Et c'est vrai que j'avais envie de couper aussi. Je sais que moi, je ne suis pas à la recherche d'avoir un article dans le journal ou d'avoir un truc. Ça m'importe peu. Après, je trouve que vous faites des super trucs, que ce soit toi ou d'autres. Mais voilà, je préfère passer la mer à d'autres que. Et puis, comme je te dis, je suis pas très expressif, donc voilà, je veux pas dire que je fuis ça, mais Je me suis fait beaucoup violence dans ma carrière et maintenant, voilà, je reviens un peu en arrière, du coup, je me retire.
Mais je le comprends, mais je le prends d'autant plus comme un honneur alors que t'es accepté de me recevoir. Et je vais juste rectifier un petit truc, je ne suis absolument pas journaliste. Alors même si beaucoup de monde va t'écouter, je ne suis pas du tout journaliste. Et voilà, mais vraiment, merci de m'avoir reçu parce que t'es quelqu'un qui gagne à être connu. On a tellement eu l'habitude de te voir passer sur tous les écrans pendant des décennies que... tu faisais partie du paysage un petit peu quand on regardait Canal Plus le samedi soir. Enfin, quand je dis le samedi soir, le samedi après-midi, parce que il faut faire attention à ce que je dis là. Non, mais c'est vrai que quand on regardait Canal le samedi après-midi, on tombait sur toi ou jour de rugby ou autre, sans te connaître, tu vois. Et là, j'ai le sentiment de savoir un peu mieux qui tu es. Je suis ravi que tu aies accepté de te confier comme ça parce que j'ai vu aussi que c'était un petit peu à contre-emploi hein, pour toi. Tu as joué le jeu à 100%. Non, merci beaucoup. Je vais te souhaiter une grande expansion pour le Foquets, que ça continue à cartonner, autant le resto que le food truck. Hein, et je peux te dire que prochaine fête de Bayonne, on va regoûter ce que tu fais pour être sûr que ça éponge bien encore. Et évidemment, je te souhaiter beaucoup de réussite avec Anglette pour le rugby et surtout dans ta vie de tous les jours parce que j'ai très très bien compris que la famille et les proches, c'est ce qui comptait le plus pour toi.
Ouais, mais écoute, je te remercie beaucoup à toi aussi parce que c'est vrai que comme tu dis, on a passé pas mal de temps ensemble du coup et j'ai pas vu le temps passer donc franchement, c'était sympa et voilà, donc je te remercie beaucoup. Et j'espère que la cravate durera très longtemps et qu'on va faire la passe à d'autres anciens pour que tu puisses continuer ça. Et voilà.
Exactement. Et on viendra fêter le 500e épisode au Foquets.
Allez, c'est monté.
À très vite.
Merci.
Ciao.
Ciao.
Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode. Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez, vous trouverez facilement La Cravate sur Instagram et sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.